Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nouvelles Portes. Comme à chaque fois, un nouveau curieux pour venir vous apporter ces trois sujets de curiosité. Alors aujourd'hui, je reçois Grégor. Grégor qui est un ami depuis un petit moment, qui a toujours été dans le milieu de l'entrepreneuriat et aussi dans les livres, dans la réflexion, la poésie, dans la remise en question, dans les neurosciences, l'étude du cerveau, et vraiment des sujets qui, à chaque fois, vont chercher bien loin. Grégor aussi est sportif, il fait de la natation, et très facilement, il arrive à naviguer entre les analogies qu'il peut y avoir entre le corps et l'esprit, et là-dessus, eh bien, on se retrouve à très rapidement pouvoir parler très longtemps. Et vous allez voir, cet épisode est riche en contenu. Il dure un petit peu plus longtemps que d'habitude, on a traîné jusqu'à 1h30 de conversation, mais je vous invite vraiment à éplucher toute la conversation qui part un petit peu dans tous les sens, mais qui en même temps reste le long d'un fil d'Ariane, un petit peu comme le chemin de Compostelle. Vous verrez pourquoi je parle de ça, c'est un des sujets de la conversation. Voilà, je vous laisse directement avec l'épisode, avec la découverte de Grégor, et bien entendu, n'hésitez pas, comme à chaque fois, à mettre 5 petites étoiles, si jamais vous avez trouvé vraiment très très bien le podcast, que ce soit sur iTunes ou que ce soit sur Spotify. Tout simplement parce que si on veut juste pouvoir mettre ce podcast sur une table et que les gens puissent au moins le voir et puis l'écouter s'ils ont envie, et ben forcément, dans notre monde et nos internets actuels, il faut que ça remonte. Donc voilà, merci de votre aide pour faire remonter le podcast. Et je vous souhaite de passer un excellent moment. Et on se retrouve juste après la conversation avec Grégor. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Nouvelles Portes. Aujourd'hui, je suis toujours à Sofa, histoire de pas changer de lieu d'enregistrement. Et je suis avec Grégor. Et je vais pas en dire plus sur Grégor, que je vais te laisser te présenter de la manière que tu souhaites.
Ok. Merci Fabrice pour l'invitation. Juste pour la petite présentation, moi je m'appelle Grégor. J'ai 31 ans, bientôt 32 la semaine prochaine. Je vais cranter les années. Moi, si pour me définir, je suis ce qu'on appelle aujourd'hui l'archétype même de la génération Y. J'ai eu l'occasion, et j'ai fait le petit calcul avant de venir, j'ai travaillé dans 10 entreprises différentes, j'en ai créé 3. Aujourd'hui, je me définis comme un entrepreneur, explorateur, hyper curieux. J'aime tester, tenter tout ce qui me touche, parce que je pense qu'on n'a qu'une seule vie, donc si j'avais... la manière de me présenter, celle-ci. Voilà, c'est vraiment, j'aime aller tester, j'aime essayer d'être curieux sur plein de sujets qui me touchent et qui m'intéressent. Voilà.
L'archétype de la génération Y.
Ouais.
J'aime bien ce terme aussi. Il y a Fanny, elle, son terme, Fanny que je te disais, donc ma pote anthropologue, son terme, c'est les créatifs culturels.
D'accord.
Voilà, donc le créatif culturel, c'est des personnes qui sont toujours dans un renouvellement constant, qui essayent de tout tester, de vouloir à peu près tout comprendre ou tout savoir. Même si au final tu sais jamais vraiment tout jusqu'au bout, mais tu te définis quand même comme étant un sachant plus que certains autres types de personnes. Et du coup, il y a un côté un peu ambigu sur le créatif culturel qui est que, bah, en effet, il y a de l'exploration, il y a de la découverte. Ah. Et puis après, d'un autre côté, il y a cette espèce de petite montée de genre je sais les choses maintenant, alors du coup, je peux aussi le partager aux autres ou faire des trucs avec, tu vois. Et du coup, c'était. Toi, t'en penses quoi de... Comment tu te définis... Quand tu dis que tu es l'archétype de la génération Y,
ouais.
C'est quelque chose que tu portes comme quelque chose d'agréable? Ou est-ce que c'est quelque chose qui, des fois, te... Tu sais, comme un vêtement qui gratte un peu
Bah, c'est... d'une certaine manière, dans la société ou la culture dans laquelle on a été... dans laquelle on a été élevé, sur la génération de nos parents ou de nos grands-parents, c'est pas quelque chose qui est commun. Je prends l'exemple de mon grand-père, il a travaillé dans 2 grosses entreprises à son époque. Donc il y a des incompréhensions qui se créent. Et pour répondre à ta question, est-ce que ça me gratte ou est-ce que c'est agréable? Oui, ça peut être agréable le matin de se dire qu'on va faire quelque chose de différent, mais faut savoir sortir de sa zone de confort. Et pour être très honnête, c'est pas toujours... extrêmement agréable, puisque il faut être j'ai cette chance et cette malchance que mon corps est extrêmement lié à mon esprit, et dès qu'on me propose de faire quelque chose qui ne me plaît pas ou qui n'est pas fait pour moi, et je parle que ce soit professionnel ou personnel, mon corps me dit que je ne le ferai pas. Donc c'est un très beau garde-fou, mais d'un autre côté, c'est constamment, constamment, constamment de se remettre en question et de ne pas avoir, on va dire, une forme de base, et donc c'est assez difficile.
Il te dit comment ton corps ?
Mon corps, il me le dit soit par la tête en me disant ne te lève pas, n'y va pas le matin, soit il y a cette petite boule au fond qui te retient, comme un élastique qui est derrière toi, qui te retient et qui te dit non, mais pourquoi tu vas faire ça ? Parce que ça, on vient à des sujets de congruence et d'envie, de valeurs personnelles. Et donc, des fois, on a un peu mis de côté nos valeurs personnelles pour pouvoir manger, se nourrir, se blanchir. Ne pas paraphraser Maslow, et qui n'est pas que ça, mais on a quand même tout ce système là, donc c'est pas forcément facile, on va dire. C'est pas quelque chose qui se porte et qui est facile à vivre tous les jours, parce que ça peut mettre de temps en temps dans certaines détresses, qu'elles soient physiques, émotionnelles, financières et autres, mais ça peut être gratifiant et très gratifiant à certains moments.
Et est-ce que tu considérais que ce nouveau modèle de vivre un petit peu qu'on expérimente avec notre génération, c'est quelque chose qui est bénéfique en fait sur la durée, sur ce qui va se passer.
Je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas extrapoler par génération. Parce que autour de moi, j'ai pas tant de gens qui sont similaires avec ce modèle de pensée. Je parle au-delà des endroits où tu veux, parce qu'il y a forcément des hubs. Tu peux prendre Sofa, on peut aller à Paris ou même dans d'autres pays. On se rend compte que oui, il y a des gens qui sont de cette génération-là, mais foncièrement, en fait, pas tant de personnes autour de nous se remettent très souvent en question, ou à un moment donné arrivent dans une forme de médiocrité. Attention. Aucun jugement de valeur sur le terme médiocrité, je veux qu'on le prenne le terme tel qu'il est. En fait, ce qu'on a là tout de suite maintenant, on l'utilise en fait pour rester entre deux eaux. C'est là où j'utilise le terme médiocrité, et je tiens à répéter, c'est pas du tout un jugement de valeur, c'est de rester entre deux eaux. On a un job qui est bien, mais on a peur d'aller en voir un autre ou d'aller tester quelque chose d'autre. On a rêvé de faire quelque chose depuis pas mal de temps, vivre, voyager, aller dans un autre pays. Oui, mais c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas le bon temps, donc je vais rester là où je suis sans aller et sans rechercher plus loin. Et en fait, c'est là où j'utilise le terme médiocrité, c'est que en fait, je suis incapable de rester dans cette zone-là. Et c'est ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, à chaque fois, je teste et j'essaye de me remettre dans une autre zone, pas pour aller, pour être le meilleur ou être le plus grand expert d'eux, parce que ça ne flatterait que mon ego et ça n'a pas lieu d'être. L'important, il est qu'est-ce qui me permet en fait d'être congruent tous les jours avec moi-même, que ce soit dans ma relation personnelle, dans mes relations intimes ou dans mes relations professionnelles ou dans ce que j'ai envie de monter. Et donc, c'est de pouvoir essayer de sortir de ça.
C'est intéressant parce que t'as l'utilisation du mot médiocrité, je le trouve intéressant pour cette espèce
d'entre-deux flottant. Départ,
hein. Il est dur de prime abord. Parce que je pense que ça peut faire tiquer l'oreille quand tu l'entends direct. Mais là où je trouve intéressant, c'est que, tu vois, par exemple, Arthur, je crois que tu ne l'as jamais rencontré, mais il avait fait un des podcasts avec moi. Lui est très sensible à tout ce qui est lié à l'esthétique. Il est beaucoup dans tout ce qui est lié à la mode et dans la photo et dans toute la dimension artistique. Et tout son travail, en fait, c'est d'utiliser ces différents médiums pour aller rechercher la beauté, en fait. Parce que pour lui... La meilleure manière d'être aligné avec soi-même et d'avoir une vie qui est cohérente pour lui comme pour les autres, c'est de se lever le matin et d'arriver à faire en sorte que chaque chose qu'il fait pour lui
soit beau.
Est beau. Et donc, s'il arrive à faire une journée où tout ce qu'il a rentré dedans est beau, alors dans ce cas-là, c'était sur son chemin. Et donc, souvent, tu te retrouves dans une situation où justement, s'il sent qu'il est sur un entre-deux, qu'il n'est pas vraiment à sa place ou quoi que ce soit, il n'est pas dans la beauté. Donc du coup, le fait de ne pas être dans la beauté, il est dans une forme de médiocrité. Et c'est une forme de médiocrité qui va ressentir, parce qu'en plus de ça, il est très émotionnel, son fonctionnement. Et je trouvais ça intéressant, en fait, la jointure entre les deux. Le fait de se dire que si jamais on fait des choses en suivant vraiment ce que nous, on trouve comme étant beau, de ce qu'on dégage ou de ce qu'on peut apporter aux autres ou de ce qu'on va chercher aussi, Alors dans ce cas-là, voilà, on est aligné. Et si par contre on reste sur cette espèce d'entre-deux, et souvent en plus on peut le sentir.
Il vaut mieux être en colère, ou il vaut mieux ressentir quelque chose d'extrêmement profond, deep, voire même dark, mais de le ressentir et d'aller jusqu'au bout pour essayer d'en faire quelque chose, que de rester entre deux eaux ou dans cette partie-là.
Et entre deux eaux, en plus de ça, tu as une forme de frustration constante et continue qui te ronge un petit peu de l'intérieur, quoi.
Tout à fait.
Mais c'est vrai que, comme tu disais, on est très privilégié de pouvoir, ne serait-ce que se retrouver là, enregistrer des podcasts dans un endroit cool, de pouvoir justement se dire, je peux me lever le matin en essayant d'aller trouver la beauté et de ne pas être dans cette zone de médiocrité.
C'est sûr.
Et de ton expérience et de ce que tu peux voir, comment tu pourrais expliquer que, justement, il y a encore, c'est encore dans une situation où il y a autant de gens qui se retrouvent à être soit enfermés dans cette zone de médiocrité, soit à s'y mettre eux-mêmes, quoi. Parce que, est-ce que c'est eux, est-ce que c'est la société en fait qui est autour, est-ce que c'est la culture de la société?
Je pense qu'il y a, il y a un gros mix des premiers exemples que tu viens de donner. En fait, je pense qu'à un moment donné, on est tous soumis à nos peurs. On est tous soumis, et très souvent nos peurs nous enferme plutôt que nous conseille. Et en fait, à mon sens, on n'est pas obligé d'écouter ses peurs et de rester enfermé et enclavé dedans. Et très souvent, quand on reste dans cette phase de deux os, c'est qu'on a peur de quelque chose. On a peur de réussir, on a peur d'échouer, on a peur d'être ostracisé par le groupe dans lequel on est, on a peur d'évoluer, on ne sait pas ce qui se passe après. Et donc, en fait, c'est cet amoncellement de peur qui existe autour de nous qui fait que c'est beaucoup plus simple de rester dans un espèce de pseudo-cocon. Et on peut le prendre dans tous les pans de la vie. Je ne parle pas que de la peur professionnelle et autres. On peut parler de la peur d'aller rencontrer une fille. On peut avoir de la peur de vivre sa relation avec la personne avec qui on a décidé de passer du temps, avec lequel on a décidé de se focusser, d'aller jusqu'au bout et de se parler vrai. Et en fait, c'est ça qui, moi, me prédomine. Cette question de beauté ou d'esthétisme, c'est quelque chose que je comprends. Moi, dans mon manière d'arriver, c'est, en fait, j'ai pas envie de rester médiocre, parce que je suis resté trop longtemps médiocre. Et cette médiocrité, au-delà de la note, je l'ai ressenti au niveau scolaire, où j'étais le mec qui était tout au fond des fins fonds des bulletins de classe. Cette médiocrité, le travail que je faisais et que je rendais, même dans les jobs que j'ai pu faire quand je faisais de la construction. En fait, je me suis juste rendu compte que la médiocrité était très souvent liée à l'envie, le besoin de classement, de savoir où est-ce qu'on en était par rapport à d'autres. Et en fait, quand j'ai cassé ce paradigme-là, je me suis dit, mais c'est pas ça la vie, c'est pas savoir si je suis meilleur ou plus expert qu'un autre, mais c'est comment, en relation, je vais pouvoir aider la personne qui est en face de moi pour peut-être plus briller, peut-être aller plus loin et vice-versa, et de quelle manière on va pouvoir être ensemble. Et en fait, très souvent, c'est comment on arrive à outrepasser et à outrepasser ses peurs. Et c'est l'une des plus grosses, difficultés. Mais au-delà de difficultés, c'est l'une des plus grosses choses auxquelles tout être humain a à faire. Et donc, c'est comment la peur ne devient pas le geôlier, mais la peur devient juste un conseiller. À partir du moment donné où la peur devient un conseil, c'est sûr qu'on a tous peur de manquer, on a tous peur de certaines choses, mais à un moment donné aussi, il y a, quand on les vit foncièrement, on se rend compte que c'est juste qu'une simple petite voix dans notre tête, et que tout ce qu'on a là, on se l'est créé. On s'est tous créé le fait d'être là à Sofa aujourd'hui, on se l'est créé parce qu'on s'est donné le temps de le faire. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses auxquelles on se crée des montagnes bien avant. On extrapole, on est très fort pour se raconter des histoires, pour se pitcher des choses. On est hyper fort pour ça. Mais en fait, prenons l'instant T, l'instant présent derrière, c'est nous qui décidons d'aller dans un job qui nous plaît pas, c'est nous qui décidons de sortir avec une personne qui nous plaît pas ou qui nous plaît, c'est nous qui décidons en fait chaque pan, chaque aspect de notre vie, et c'est ça que je trouve aussi intéressant.
On lance le mouvement, mais potentiellement un mouvement qu'on a ressenti aussi derrière.
Tout à fait. Ou qu'on a ressorti ou qu'on nous a donné. Tu vois, voilà, tu donnais des exemples tout à l'heure de est-ce que c'est la société, est-ce que c'est... Bien sûr que c'est un mélange, c'est un melting pot de tout ça. Mais à un moment, c'est nous en tant que personne, On n'est pas obligé d'être ce que nos parents pensent, on n'est pas obligé d'être ce que la société veut de nous, sans une envie anarchiste ou autre. C'est qu'à un moment, c'est de savoir fondamentalement s'écouter, et quand on s'écoute fondamentalement, par le silence, tu as fait une porte il y a peu de temps sur le silence, mais par le silence, eh ben, c'est ce qui nous permet, en fait, de petit à petit, d'essayer d'aller tester d'autres choses. Et on est quand même très très fort, moi le premier, à trouver toutes les solutions pour ne pas réellement s'écouter.
Oui, clairement. Et puis après, tu as la dimension de la personne, comme tu dis. Et quand moi, je parlais de la dimension aussi de l'environnement que tu as autour, par exemple, quand tu parlais d'éducation, je trouve ça intéressant que tu aies commencé sur cette notion de comparaison aux autres par rapport aux notes que tu pouvais avoir à l'école. Il y a un bouquin là que je pense que tu adoreras, on n'en a pas encore parlé tous les deux, mais c'est un pote qui me l'a filé, qui s'appelle La convivialité. Et en fait, c'est un bouquin qui a été écrit en 73, et dans ce bouquin, il fait une sorte de critique complète de la société de 73, et tu as l'impression qu'en fait, il est en train de faire une critique complète de la société de 2018. Et parce que, bon, voilà, on fait des cycles,
C'est hyper
il
cyclique.
parle des gens qui commencent à être très sensibles à l'environnement, et que du coup, ça commence à bouger des choses. En 73, là, on est en train de vivre à peu près la même chose maintenant, donc c'est vraiment très intéressant en plus de le lire maintenant, quoi. Et en fait, lui, il y a d'autres trucs que je voulais te partager. C'était pour l'éducation. En fait, pour lui, ce qui compte, c'est d'apprendre, l'apprentissage et la découverte, l'exploration, la curiosité, un peu comme tu disais. Mais l'éducation, en fait, c'est un préformatage de savoir qu'on fait descendre dans la tête des gens d'une certaine manière pour arriver à les mettre sur un certain rail pour qu'ils fassent une certaine chose. Surtout en
C'est sûr.
73, où c'était vraiment l'industrialisation mécanique et fabrication de produits, on produisait des ressources humaines pour qu'elles aillent dans les entreprises. Et en fait, tu vois,
Et on continue.
et on continue, bien entendu, on est encore là-dedans. Et le problème qu'il y a, c'est que vu que cette notion de notation et de concurrence que tu as par rapport aux autres, elle est si jeune, elle est là quand tu as 7, 8 ans, tu vois, en CE1, en
Ouais, bien
CP, tu es
sûr.
déjà là. Même maintenant, quand justement, comme tu dis, tu te donnes les moyens ou que tu as la chance de pouvoir sortir un peu du contexte de concurrence d'entreprise, un peu comme nous, on peut être plus indépendant, aller explorer, faire cette chose, quand on a même cette chance-là. Qu'au fond de toi, en fait, tu as réussi à déconstruire certains pans où tu te dis je ne suis pas en concurrence, j'ai pas à me comparer aux autres et je peux juste être vraiment sur la collaboration avec les autres. Et bien, il y a quand même certains matins où je me lève et où je vois qu'il y a tel mec qui a fait tel truc et je me dis ah ouais, putain, quand même, ah, il est meilleur sur ça. Et puis un autre, ah ouais, quand même meilleur. Et puis des fois, moi, je me dis, ah là, j'étais quand même mieux que lui sur ce coup. Et toi, ces espèces de biais cognitifs qui viennent de là-bas, tout en bas de l'enfance, qui même si tu, au quotidien, tu le déconstruis, ça te fait des petits sursauts de temps en temps. Alors bon, maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'à force, ben, les petits sursauts, tu finis par les voir quand ils arrivent et tu fais, ouais, ça va, arrête, arrête, tu vois. Mais c'est quand même des sursauts. Pour dire que c'est tellement ancré
C'est sûr.
que la déconstruction est ultra complexe pour tout le monde, quoi.
En fait, déjà rien que de rajouter le mot complexité pour déconstruire. Déjà, ça en rajoute. Dès que tu mets un mot qui commence par complexe, tu te dis que c'est presque limite impossible. En fait, le sujet, il est de pouvoir, en fait, à un moment, juste de prendre et de ralentir un peu les choses pour essayer de vraiment et de foncièrement comprendre. Et en fait, le sujet autour de la notation, il est extrêmement fort. Parce que, et tu l'as dit toi-même depuis tout à l'heure, depuis l'âge de 8 ans, on te note, on te compare à d'autres. Mais quand tu as compris qu'on te compare à d'autres sur... je vous invite à lire énormément de choses. L'une de mes curiosités, c'est le cerveau. Et en fait, la plasticité du cerveau, la flexibilité du cerveau, où avant on pensait qu'il n'y avait qu'une seule aire. Je vous invite par exemple à lire l'aire de Broca et du premier neuroscientiste et qui est aujourd'hui chirurgien, qui a fait les premiers... opération du cerveau avec sans, j'allais dire sans anesthésie, juste pour pouvoir trouver à quelle zone correspondait en fait l'endroit où la tumeur ou le tumeur de cerveau commençait à pénétrer dans le cerveau, et comment il utilisait la parole, le savoir inné, le savoir qu'on a pu accumuler, l'expertise et l'expérience pour pouvoir en fait mettre son aiguille au bon endroit. Et on se rend compte que le cerveau est hyper plastique. Je vous invite, ça s'appelle l'herbe, les croyances sur l'ère de Broca, et on y croit encore. Et en fait, là, ce qui est vraiment extrêmement important vis-à-vis de la notation, c'est qu'à un moment donné, il faut juste s'en extirper. Parce qu'on se rend compte que les personnes qui ont toujours voulu être premiers, à un moment donné, s'ils n'y arrivent pas, et on y arrive très peu. Un exemple très bête, c'est que, par exemple, je lisais en baseball, les gens qui sont dans le Hall of Fame, donc la crème de la crème, donc c'est-à-dire déjà des professionnels, c'est-à-dire 2% des joueurs de baseball, ceux qui arrivent dans ce fameux crème de la crème, il n'y en a que 2%. Et ils ont échoué à 75% de leur temps. Donc ils ont passé leur vie dans un espèce de flot de frustration pour pouvoir cranter et aller plus haut. Pour ce type de personnes qui, avec la notation et les règles du jeu qui ont été émises, typiquement les règles du baseball, ben on se rend compte que ces gens-là ont réussi à passer leur frustration et à arriver à l'objectif où ils voulaient être. Mais c'est parce qu'ils se sont complètement imagés et focalisés pour pouvoir en être là. Et là, aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation où tout le monde voudrait être premier, mais sur des sujets où on n'a pas tous les mêmes aptitudes, on ne fait pas tous les mêmes choses, on n'utilise pas nos émotions de la même manière, on ne capitalise pas de la même manière. Et en fait, je pense qu'à un moment donné, il faudrait arriver à casser toute cette sédimentation qui a été faite et qui a été créée autour de la meilleure note. Pour les médecins aujourd'hui, on prend que ceux qui sont en top 10 pour pouvoir passer en école de médecine, alors qu'il y en a qui seront en capacité de pouvoir le faire, mais avec des méthodes qui sont complètement différentes, c'est juste qu'ils ne sont pas capables d'appréhender la méthode. Et moi, j'ai vécu ça pendant toutes mes études. Ma mère a pleuré parce que je suis parti faire un bac professionnel en maçonnerie, et je lui en veux pas. Mais sauf que pour eux et pour la génération de nos parents, le fait de faire des grandes écoles, le fait de faire des grandes études était un véritable passeport pour avoir une forme de sérénité et de sécurité. Mmh. Et ce que je comprends, puisque c'est le modèle dans lequel ils ont vécu. Maintenant, la question, elle est comment arriver à donner ça. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, le vrai sujet, il est la curiosité dont tu es en train de parler. C'est qu'on prend notre téléphone, Google vient d'avoir 20 ans, alors au-delà de Google, mais en 3 clics, on est capable de pouvoir avoir de l'information, de pouvoir être capable de la critiquer. Et je pense qu'il faut donner cette possibilité aux gens de pouvoir critiquer l'information. Et surtout, de pouvoir ensuite se dire sur quoi je me focalise. On a une telle, on a un tel éventail aujourd'hui qui fait qu'on ne sait pas sur quoi se focaliser. Et je pense que c'est à ce moment donné-là, où quand on a envie de s'écouter ou qu'on a envie de faire des choses, c'est s'écouter ce qu'on a envie de faire et de commencer à pouvoir aller se cultiver, s'acculturer sur des sujets. On n'a jamais eu autant de connaissances de toute notre vie, de possibilités de rencontrer en 3 mails des personnalités qu'on a envie de voir. Et ça, c'est extrêmement important pour se créer des nouveaux schémas.
Oui, clairement. Après, je voulais rebondir sur
tu balances plein de choses.
Non, mais c'est parfait,
ça,
c'est parfait.
Ça bouge.
Ça part souvent comme ça, donc c'est nickel. C'est le côté, toi, pour que tes parents soient rassurés, il fallait que les parents en général soient rassurés, ouais. Il fallait que les enfants aient dans une grande école pour qu'ils puissent être référencés comme étant les meilleurs, parce que quand tu es dans les meilleurs, tu es visible.
C'est sûr.
Et donc, du coup, tu as cette notion de confiance, en fait, au ouais. final. C'est le levier de confiance pour que des gens collaborent ou pour que des gens fassent ci ou fassent ça, eh ben, c'est cette espèce de certification par le fait que tu es plus ou moins haut classé sur le classement de ton domaine ou de ton secteur.
C'est sûr.
Et, ou sinon, par recommandation, par d'autres personnes qui, eux, sont haut classés, qui vont dire que lui, tu peux lui faire confiance, et ça rebondit comme ça. Et là où ça rejoint à la connaissance, et ce que tu dis sur la curiosité, c'est que le fonctionnement des algorithmes qu'il peut y avoir sur Google, sur Facebook ou sur toutes les plateformes, au final, récupère ce paramètre-là.
Ouais, c'est vrai.
Donc, par exemple, on va s'intéresser, on va se dire, tiens, là, vu qu'en ce moment, on parle beaucoup d'écologie, donc déjà, c'est remonté parce que pourquoi tout le monde en parle, pourquoi ça devient global, c'est parce qu'il y a 2-3 personnes qui étaient assez haut placées, qui ont partagé ça, ça a été rebalancé par tes potes, donc du coup, par lien de confiance algorithmique, ça te remonte. Donc, du coup, ça remonte chez tout le monde.
Alors, moi je me suis désabonné de Facebook et très peu de Twitter. Enfin, j'essaye au maximum aujourd'hui de savoir ce que je mets dans mon cerveau. Ouais. Et donc, pour ça que je me suis permis de te couper là, mais tu vois, là, tous ces sujets-là et autres, si je ne les sais pas à l'instant T, pour moi, ce n'est pas un problème en soi, parce que cette information, on garde que ce qu'il y a de meilleur. Donc, plus tu attends pour l'information, plus les informations, j'allais dire, frénétiques vont redescendre. C'est pas celle qui m'intéresse, moi c'est celle qui reste en suspension. Et tu vois, typiquement, ça c'est le genre de choses
Ouais, je vois.
que je ne sais. Tu parles du départ du lot, tu parles de ces choses-là?
Bah, tu peux avoir des trucs comme ça. Après, c'est. Tu vas avoir des choses qui vont être très médiatisées ou
Ouais.
médiatiques, parce que c'est les top médias qui le partagent, donc
Ouais.
du coup, ça va remonter chez tout le monde. Ça va commencer à rentrer dans la tête des gens. Ensuite, ces gens-là, ils vont se dire, je vais aller rechercher des choses pour me renseigner sur l'environnement, par
Ouais.
exemple. Et puis sur les risques d'effondrement, par exemple. Donc ils vont tomber sur Pablo Servigne, la collapsologie, l'anthropocène.
Ouais.
Et tout le monde, en général, si tu fais ta recherche par des potes qui eux-mêmes ont fait leur recherche par Internet, ou tu fais ta recherche sur Internet, tu vas tomber sur quasiment les mêmes catégories de bouquins. Et ces catégories de bouquins vont te renvoyer vers les auteurs. Et les auteurs eux-mêmes, en fait, ayant le même fonctionnement que toi, vont te renvoyer vers le même type de référence. Et en fait, voilà, moi, c'était la discussion aussi que j'avais avec Alice dans le podcast précédent. C'était à quel moment, en fait, tu peux arriver vraiment à avoir une diversité de connaissances et d'informations. Est-ce que c'est encore possible? Sur Internet, je parle, ou est-ce que tu te retrouves toujours à rebondir de bulle en bulle, mais dans les mêmes bulles, des mêmes personnes qui sont assez proches de ton modèle de pensée, et qu'au final, si tu parles écologie
Ouais.
avec quelqu'un, tout le monde va parler de la même chose, et on va pas parler du petit truc qui est jamais remonté, parce que le mec, justement, n'a jamais été classé dans les algorithmes et n'a jamais été
C'est
médiatisé.
sûr.
Et toi, c'est ça, cette frustration-là. Et pour finir, ce qu'on se disait, c'est qu'il fallait peut-être des fois aussi. Aller dans un milieu où tu vas jamais discuter avec ton boulanger
Carrément.
et lui dire donne-moi trois de tes meilleurs bouquins qui t'ont fait du bien, et ce mec-là te file ses bouquins, ou rentrer dans une bibliothèque, aller prendre limite des bouquins au pif, et que ça te donne des références qui sont complètement aléatoires, et en fait créer du chaos dans le modèle de connaissance plutôt que rester sur cette espèce de fonctionnement algorithmique qui t'enferme, quoi.
Bah c'est même enfin, c'est là où je reviens, parce qu'on a parlé de recherche ou de curiosité. La curiosité, c'est pas Google. Google, c'est qu'un moyen parmi tant d'autres. Google, ça permet juste de pouvoir donner un flot d'informations en quelques millisecondes. Maintenant, moi, j'invite la plupart des gens à aller à la bibliothèque municipale. Ils ouvrent, ils veulent comprendre, ils veulent lire d'autres livres, ils veulent voir des sujets sur l'écologie. Et bah, aller à la bibliothèque municipale et regarder quel type de livre il y a sur l'écologie aujourd'hui. En fait, c'est d'essayer de s'ouvrir un maximum d'ouverture sur ce qu'il y a autour de nous pour vraiment, si on en a envie. Parce que l'une des autres problématiques aussi, il est de savoir sur quoi tu as envie de passer ton temps. Parce que c'est ça la question. Et c'est l'économie de la connaissance d'Idrissa Berkane, que j'invite vraiment à lire, à pousser, et pas sur une envie d'en faire un dogme ou autre, mais de savoir sur quoi on passe notre temps et combien de temps on a envie de passer et de mettre du temps et comment on a envie d'apprendre. Et moi, je me suis dit, une journée aujourd'hui, si j'ai pas passé 25% de mon temps dans cette journée à apprendre quelque chose dans lequel j'ai envie de me développer, pour moi, c'est pas une journée c'est pas une journée dans laquelle je sens que j'ai fait quelque chose de concret et pour moi. Donc en fait, tu vois, je me suis mis certains petits, j'allais dire petits mantras, petites règles. On peut divaguer sur le terme, mais en fait, c'est comment je mets un certain laps de temps dans ma journée. Et ça n'a pas toujours été facile, parce que c'est quelque chose qui produit pas d'argent. Et dans notre société aujourd'hui, on te dit constamment, bah, le temps c'est de l'argent, ou j'allais dire tout ce type de mantra-là. Et deuxièmement, c'est pour des curieux, c'est sur quoi je mets mon énergie et jusqu'où j'ai envie d'aller. Parce que ça en vient à un sujet qui est très prégnant, qui est le sujet de l'expert. À partir de quel moment on peut se considérer comme une forme d'expert? Prenez des philosophes, prenez aujourd'hui, en fait, toutes les personnes qui sont en train de graviter, j'allais dire dans les médias beaucoup plus classiques, mais ceux qui sont en train de s'ouvrir dans les nouveaux médias. La question, c'est à quel moment est-ce que la notoriété fait l'expertise, ou est-ce que l'expertise fait la notoriété? Et d'un autre côté, est-ce que derrière cette expertise-là, combien de temps les gens ont passé fondamentalement à comprendre et à maîtriser un sujet. Et derrière, c'est là où c'est cette question qu'il faut se poser avant de porter un jugement de valeur sur d'autres. C'est nous, aujourd'hui, jusqu'à quel degré d'expertise on a envie d'aller pour pouvoir le faire. Si on veut maîtriser le piano, il faut passer à peu près plus de 15 000 heures derrière un piano pour pouvoir le faire et pour pouvoir être en capacité de pouvoir jouer. Une heure et demie, complet, la sonate au clair de lune et autres. Mais c'est combien de temps nous, on a envie de passer derrière pour pouvoir être capable de jouer du piano, pour pouvoir maîtriser la physique quantique, pour pouvoir maîtriser certaines choses. Maintenant, c'est tout un sujet qu'il faut se poser aussi quand on a des envies de curiosité, de faire très attention à vouloir avoir une maîtrise de plein de choses. Mais à un moment, notre temps, il est limité. On ne pourra pas avoir la connaissance ultime de la fameuse bibliothèque de tout que Napoléon voulait faire, que les grands pharaons voulaient faire. C'est comment nous, on a envie de passer notre temps et mettre notre sujet à des choses qui nous touchent et dans lesquelles on peut être curieux.
C'est là où c'est intéressant aussi ce contraste justement par rapport à ce qu'on parlait avant sur les autres époques en fait. Où, du coup, tu passais par tout le système éducatif pour qu'il arrive à te mettre les espèces d'œillères qu'il faut pour que tu puisses faire ton boulot. Que ben, tu étais, si on prend le cas extrême des ouvriers qui bossaient dans les mines de charbon par exemple. Tu n'as plus à te servir de ton cerveau rationnel, tu n'as plus à te servir de ton cerveau non plus émotionnel, tu as juste à te lever le matin et faire ce que tu as à faire et être tellement crevé que tu ne peux rien faire d'autre.
C'est sûr.
Donc dans cet état d'esprit-là, j'adorerais discuter avec un ancien minier d'ailleurs pour voir comment lui, ça se fonctionne dans sa tête, parce que je peux que imaginer le truc, mais on en est tellement loin que c'est difficile d'arriver à vraiment imaginer, je pense, comment ça se passe dans la tête de ces personnes. Mais j'imagine que c'est... T'as tellement pas d'énergie et t'as tellement plus de... Voilà, c'est ça, c'est le côté énergie que le seul peu de temps que tu as, il est pour te reposer ou pour profiter un peu de ta famille, des choses très simples.
Ouais.
Et là, maintenant, nous, on peut se retrouver dans une situation où on a un panel immense de découvertes à avoir. Donc, c'est-à-dire que les œillères, elles sont plus pareilles, quoi. C'est plus genre fermé focus, mais c'est... Peut-être un autre type d'œillère, tout est ouvert large, mais après c'est peut-être sur la diversité qu'on peut se fermer, mais c'est immensément ouvert. Et là, ça va nous poser des problématiques de dire comment est-ce que je fais pour arriver à focus dans un sens ou dans un autre.
C'est de l'écoute, comme pour le minier et comme l'autre. J'en ai aucunement la prétention d'avoir bossé 30 ans dans des mines et autres, mais j'ai bossé 3 ans en tant que maçon, donc à être à 5h30 debout le matin et à finir à 16h et être extrêmement fatigué et autres. La question derrière, elle est qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Qu'est-ce qu'on a envie de faire et où est-ce qu'on a envie d'aller ? Bah, s'il faut bosser le double derrière et passer du temps, en fait, on se rend compte que on se donne le temps qu'on a envie de se donner pour réaliser ça. Et la curiosité en est une. Très souvent, on est piqué par les sujets de curiosité parce que au-delà de vouloir le maîtriser, c'est pour le réutiliser, pour pouvoir le passer, pour pouvoir le donner à d'autres. Et il y a tout ce phénomène-là dans lequel qu'il faut foncièrement prendre en compte. Et donc, le sujet autour de ça, c'est que c'est juste de l'écoute. Et moi, j'ai rencontré des gens dans ma carrière ou de manœuvre où on utilise plus notre cerveau, de dire on a une mission d'un point A à un point B, on la réalise, on l'a donnée, on y va, on pose le cerveau. Et en fait, moi j'ai rencontré plein de gens extrêmement ouverts qui écrivaient, qui lisaient de la poésie en plein milieu de chantier. Et c'est ça aussi qui est extrêmement intéressant, c'est que ça en vient à un autre sujet, c'est qu'on a des tendances à croire que plus on est haut dans la fameuse hiérarchie ou la pyramide que l'on s'est créée en tant qu'être humain en France et autres, et moins il y a de réflexion intellectuelle ou proche de celle-ci. Tous les êtres humains, peu importe leur rang, et c'est là où je suis très heureux d'être un pseudo-slasher ou faire partie de la génération Y, parce que j'ai eu l'occasion, et pas de côtoyer tout le monde, mais de côtoyer des gens de plein de bords et de plein de milieux différents, et qui se posent en fait ces mêmes questions, qui se posent en fait ces questions fondamentales qui existent, mais qui sont très souvent écrasées par le poids du système et par ces fameuses phase de fatigue dont tu es en train de parler ou d'énergie. Et c'est sûr qu'il y a des jobs qui prennent plus d'énergie que d'autres, à ne pas en douter. Mais c'est Après, c'est qu'est-ce que nous voulons, nous, en tant qu'être humain, de vouloir rester là, au-delà de monter la pyramide, mais elle est de qu'est-ce que nous, et qu'est-ce qui nous foncièrement, nous ferait du bien, nous ferait nous sentir libres. Et quand j'ai passé mon bac professionnel, moi j'avais des mecs qui étaient prêts à Cannes, Hippo Cannes, qui étaient le summum de la littérature, enfin du L, de la littérature et ces choses-là, qui sont revenus et qui sont fait un bac professionnel en maçonnerie pour monter une boîte de poseurs de pierre en Ardèche. Et voilà, c'est ça que je trouve aussi extrêmement intéressant, et des passages et des passerelles. Et des passerelles qui
existent. Mais c'est ça. Mais c'est quand la personne a justement suffisamment d'énergie pour pouvoir découvrir, explorer et découvrir ce qu'elle, elle a vraiment envie de faire. Par exemple, tu libères un gars qui bossait dans les mines et donc écrasé par l'effort et par le non-temps qu'il a en dehors de son travail, tu le libères de ça quelque part. En dehors de cette pression, il va pouvoir commencer à avoir de l'énergie pour aller creuser d'autres sujets. Et donc, comme tu dis, soit il peut devenir intellectuel et faire de la poésie, ou soit il peut juste être maçon ou travailler dans le bâtiment, ou même continuer à bosser dans une mine s'il découvre par lui-même que ce qu'il aime, c'est faire ça.
Ouais.
Tu vois? Mais il y a besoin de cette liberté, en fait, de cette quantité d'énergie pour pouvoir le faire. C'est pour ça que moi, j'aime bien des fois le remplacer le temps par l'énergie, en fait.
Mm.
Parce qu'au final, avoir plus de temps, c'est pour avoir... Par exemple, il y a des indépendants qui vont avoir plus de temps qu'en bossant dans une boîte, mais ils vont utiliser ce temps-là pour en faire encore plus. Et au final, leur énergie
d'en faire plus.
Se retrouve toujours à en faire plus pour une chose qui peut être une dimension économique ou une peur économique, qui est une forme de pression aussi, comme la personne qui est dans sa mine. Et donc, du coup, la petite bascule de se dire, tiens, peut-être que c'est de l'énergie, en fait, et mon énergie... Il y a des choses en plus de ça, quand j'utilise mon énergie pour faire certaines choses, ça me redonne de l'énergie. Et quand j'utilise mon énergie pour faire certaines choses, ça me prend cette énergie. Et voilà, réfléchir par l'énergie, je ne sais pas si toi tu t'essayes de temps en temps ou si c'est une habitude, mais je trouve que c'est intéressant aussi. Même pour réfléchir par rapport aux autres, quoi, en fait, à ce qui se passe, tu vois, même pour sortir du non-jugement, en fait, de se dire, ben ouais. Comme je disais pour les créatifs culturels, tu vois, des fois, tu as une sorte de prétention qui est, bon, bah attends, faut se donner les moyens aussi de se renseigner, faut se donner les moyens de faire des choses, regarde, moi, je le fais, ou tu vois, cette prétention un peu violente. Ben ouais, mais en fait, si tu observes un peu la vie de la personne, tu peux te rendre compte que l'autre personne que tu étais en train de juger, en vrai, par jour, il a 30 minutes d'énergie pour pouvoir faire ce que toi, tu fais sur 4 heures de ta journée.
Ouais, mais ces 30 minutes peuvent être plus productives que toutes ces 4, plus productives, peuvent être plus focus que sur ces 4 heures. Enfin, c'est sûr que c'est comme prendre du temps pour élever ses enfants, comme prendre du temps pour faire, je ne sais pas moi, un type de sport, ou prendre du temps pour se développer dans quelque chose. C'est juste où est-ce qu'on va mettre notre temps et notre énergie. Mais moi je te dis du temps, tu me parles du temps parce que je fais une corrélation très forte entre le temps et l'énergie. Parce que quand je t'entends parler, pour toi, l'énergie, c'est comme si tu jouais, on a une console en face de nous, c'est comme si tu jouais à Tekken ou à un jeu de baston pour ceux qui ne connaissent pas, mais tu as une jauge de vie et plus ta journée avance et plus tu perds d'énergie. Pour moi, ma mentalisation d'énergie, elle n'est pas comme ça. Ma mentalisation de l'énergie, elle est que, en fait, on a une dose d'énergie qui peut être constamment la même, tout le temps. Mais la question, c'est à quel moment on l'utilise et on est en capacité de se dire, je me focus là-dessus, je me focus sur le fait de te parler là maintenant, je me focus sur le fait d'apprendre une technique, d'apprendre à jouer de la guitare ou de me lancer un défi. Elle est là, pour moi, le rapport à l'énergie et le rapport au temps. C'est pour ça que je ramène très souvent au temps, parce que le temps, c'est la seule chose qu'on ne peut pas rattraper derrière. On peut le distordre, comme des fois, en lisant un bon livre, on ne se rend pas compte du temps qui file, mais comme des fois, on, sur une douleur ou sur quelque chose, on se rend compte que le temps passe tout doucement, mais en fait, d'une certaine manière, le temps est le même pour tout le monde. C'est où est-ce qu'on met son temps? Et si on se demande, et là, c'est un peu le coach qui parle, c'est... La question, c'est, ouais, très souvent, moi, j'entends, ouais, j'ai pas de temps de faire ça, j'ai pas de temps. Bien sûr qu'on a toujours le temps de pouvoir le faire. Être capable de se lever une demi-heure derrière, de se coucher une demi-heure plus tard, de couper Netflix, de pas aller boire un coup avec ses potes. Ou au-delà de ça, mon propos, il est juste que c'est une solution de facilité de se blâmer, de se dire qu'on n'a pas le temps. mais quoi qu'il arrive, ça file. Et à un moment donné, il faut savoir sur quoi on peut se focaliser. Et par contre, le focus, vraiment le fait de regarder le logo de ta basket là, et ben j'ai décidé de me focuser pendant 5 secondes pour le regarder et m'arrêter dessus. Et donc c'est ça l'important, c'est combien de temps on est foncièrement focus sur ce qu'on veut faire. Et très souvent on se laisse prendre par le temps. Et ça c'est un rapport. Moi j'ai eu énormément de temps avant de comprendre foncièrement ça. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. Et peu importe dans quel monde on vit, où est-ce qu'on est, on peut toujours. Pas veut dire que c'est facile, très loin de là. C'est juste que en fait, on peut arriver à modéliser ou à monopoliser du temps pour pouvoir arriver à des fins qui sont plutôt à moyen long terme que des envies d'avoir un bénéfice très court terme.
Oui, bien sûr.
Et ça, pour moi, c'est un rapport très très particulier qu'on est en capacité de se créer.
Le rapport avec le temps, ouais. Bah tiens, je peux te citer un autre. Je te disais l'éducation dans le bouquin sur la convivialité. Et il y a la partie sur le temps, en fait. Et lui, en fait, il le prend par l'axe de la mobilité, la circulation. Il disait, il prend l'exemple d'un village du Mexique. J'aime bien cette petite histoire-là. En plus, c'est dans des pays qui sont culturellement différents des nôtres, donc du coup c'est intéressant. Et il disait, pendant longtemps, le paysan qui devait amener son cochon ou toute sa production sur le marché, il le faisait avec une charrette et deux chevaux. Donc il n'allait pas vite, il savait qu'il fallait qu'il prenne ce temps-là pour aller jusqu'à là-bas. Et les routes étaient un peu pétées en terre ou quoi que ce soit, mais il le faisait. Et en fait, ça lui allait bien. Il le faisait, il vendait ses trucs, il avait l'argent qu'il fallait pour vivre,
Et un valet.
et ça circulait. Et puis il y a un jour où il y a des gens qui, justement, ont inventé un moyen de transport qui permettait d'aller plus
Plus
vite que la
vite.
charrette avec les chevaux. Ils ont inventé la voiture. Et vu qu'ils ont inventé la voiture et que c'est rentré dans une démarche d'industrialisation, pour avoir une voiture, il fallait avoir des routes goudronnées. Donc du coup, tu mets plus de routes goudronnées. En plus, tu as l'économie qui se base là-dessus aussi, donc du coup, tu en développes plein. Et tu te retrouves à avoir le même paysan qui peut plus utiliser sa charrette et ses chevaux pour aller jusqu'au marché parce que il y a une route goudronnée et qu'il y a des législations qui font qu'il peut pas aller avec sa
Bien sûr.
charrette et ses chevaux dessus.
Ouais, c'est sûr.
Donc c'est là où tu as la jointure avec pour ceux
C'est
qui
le
ont pas
progrès.
voilà le progrès. Pour ceux qui ont pas mal voyagé, c'est qu'après tu peux dans ces pays-là trouver des paysans justement qui sont avec leurs poules, leurs cochons dans des bus. Parce que du coup, c'était le seul moyen qu'ils avaient pour pouvoir aller à ce marché. Et puis après, législation, du coup, avec le progrès qui est encore là sur les normes d'hygiène ou sur les restrictions, il ne peut plus monter avec son cochon ou avec ses poules. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, il se retrouve dans une situation où soit il vend sa production et ses animaux à des nouveaux types de business qui viennent directement chez eux, les chercher pour aller
Bien
les
sûr.
revendre ensuite, mais il gagne moins d'argent parce que les autres se font une
Donc
marge.
il faut qu'il
C'est ça.
produise plus.
Soit, sinon, il se retrouve à, comme beaucoup ont dû faire, devoir acheter un camion pour pouvoir y aller. Et en fait, c'était ça, cette notion de se dire que ce n'est pas convivial dans le sens où ce n'est pas équilibré pour tous. C'est que ce progrès, cette évolution a forcé ce paysan au lieu d'aller à 30 à l'heure avec sa charrette, ça l'a forcé à
Aller plus
aller à
vite, à
90,
devoir
100
aller
à
plus
l'heure.
vite, ouais, c'est
Et vu
sûr.
qu'il va plus vite, eh ben, il se retrouve à se dire, je peux faire plus d'aller-retour. Vu que je peux faire plus d'aller-retour, je peux vendre plus. Donc
Donc il
du
faut que je
coup,
produise
il
plus.
faut que je produise plus. Et là, hop, on rentre dans cette espèce d'engrenage où ce temps qui était complètement dilué, écarté, s'est contracté. Et plus on continue à être dans cette espèce de progrès, à vouloir aller plus vite avec les moyens de transport, plus on contracte ce temps. Et en plus de ça, si on revient sur la dimension de caste sociale qu'il peut y avoir, au départ, ceux qui utilisaient les avions surtout, vu que c'était très très cher, c'était les médecins qui devaient aller faire des congrès internationaux. Et donc, dans la tête des gens, c'est pareil, c'est les médecins peuvent se payer des transports en avion parce que leur temps à eux est plus important, il faut qu'ils aillent plus vite pour aller faire ces congrès. Moi, je suis juste un petit ouvrier. Et hop, on caste les gens avec les moyens de transport aussi. Là où je voulais en
Intéressant.
venir par rapport à ce livre qui est génial pour ça, c'était que il y a un moment donné, en fait, il a fait une petite étude et il se disait que il y a un moment donné en fait où la vitesse de transport, si jamais elle s'arrête pas de monter, on va se retrouver complètement dans un engrenage. Et là, il pose des lanceurs d'alerte en 73, des alertes qu'on a complètement explosées nous maintenant, parce qu'il n'avait pas forcément encore en tête la vitesse à laquelle pouvait aller la pensée avec le numérique. Là, du coup, on est complètement perdu dedans.
Ouais.
Et ils avaient posé une étude comme quoi la vitesse de déplacement qui serait conviviale pour une société, c'est la vitesse de déplacement qu'on peut avoir en vélo.
D'accord.
Parce qu'à ce moment-là, on redit du tout. Par exemple, le médecin qui devrait aller faire son congrès à 2000 km, ben, à vitesse de vélo, même s'il y va dans une belle voiture luxueuse, on s'en fiche, mais à 30 km/h, et ben, il a besoin de se faire 3 semaines de voyage pour aller jusqu'à là-bas.
Donc tu veux militer pour remettre le kilométrage
à 30 maximum
sur l'autoroute.
Ouais. T'imagines le fait de
je
dire...
Je te soutiens, on fait une pétition, je te soutiens.
C'est bon, t'es chaud. 30 km/h, ça fait 3 semaines pour aller à un congrès. Ça fait que le congrès ne dure plus qu'une journée, parce que les gens ne vont pas y aller juste pour une journée. Le congrès va peut-être durer une semaine, donc ils vont prendre le temps d'être ensemble et de se voir. Et tu vois, ça change tout. Une réunion, du coup, tu ne vas plus te déplacer vite avec ta voiture pour aller faire une réunion rapide. Si tu te déplaces dans une autre ville, tu y vas pour y passer toute la journée. Donc là, tu prends le temps aussi.
De rester, c'est
et
sûr.
Tout se dilue, en fait. Et je trouve ça assez intéressant, cette réflexion sur le temps aussi.
C'est marrant que tu me parles de ça, parce que en fait, je reviens de 4 jours d'un petit périple à religieux, mais spirituel, sur Saint-Jacques de Compostelle. Et j'étais assez étonné, en fait, de ça, du rapport qu'on a à la marche. 4 jours, j'ai dû faire une centaine de kilomètres. Et là, pour le coup, j'allais de ville en ville. Et de ville en ville, je prenais le temps. Donc, ça veut dire que je mettais 6 heures, 7 heures, 8 heures à marcher toute la journée pour aller d'un point A à un point B, alors qu'en véhicule, je pouvais mettre à peu près un quart d'heure pour pouvoir le faire. Et pour moi, ce côté d'aller plus lentement et d'arriver dans la ville m'a permis, en fait, à essayer de comprendre ma frustration ou de cette envie frustrante de toujours que tout soit rempli, qu'on ait toujours quelque chose à faire ou qu'il faut toujours qu'on le fasse extrêmement vite. Et ça m'a permis de réfléchir à ce rapport que je pouvais avoir. C'est-à-dire que si j'avais oublié quelque chose ou s'il y a quelque chose, bah, je me débrouillerais complètement différent. Et je l'avais vécu dans un voyage où je me suis donné l'occasion de voyager pendant 1 an et demi dans plusieurs pays où là, je prenais beaucoup l'avion, ces choses-là. Et ce qui me permettait d'aller très vite et limite d'être un poil consommateur dans ma manière de visiter et de voir le pays. Alors que là, c'était en France, j'ai pris un train, en 2 heures, j'étais au Puy, puis j'ai commencé à marcher. Et là, t'as un rapport qui devient complètement différent aux rencontres que tu vas faire. Parce que quand tu vas doubler quelqu'un ou quelqu'un va te doubler, bah, vous allez marcher peut-être à 100 mètres plus rapidement l'un que l'autre à l'heure. Donc cette personne va rester dans ton champ de vision et donc tu vas peut-être discuter, partager une bribe, un quignon de pain ou autre. Ça fait très cliché, mais c'est vraiment ce qui a pu se passer. Et moi, ça a été une forme de révélation pour moi de me dire qu'en fait, et j'ai repris sur un calepin avec la vie d'entrepreneur que j'ai, de quelle mission je faisais, qu'est-ce que je faisais, à quel moment. Et je me suis rendu compte de quelle mission j'essayais de faire vite ou qu'est-ce que je faisais pour essayer d'absolument remplir ce que j'avais en face de moi pour ne pas prendre ce temps-là. Et c'est toute la réflexion que j'ai aujourd'hui, c'est comment, en fait, je peux aider un maximum de personnes, mais en prenant le temps de faire les choses. Et ça, c'est tout un rapport à soi, mais c'est aussi quelque chose d'extrêmement difficile parce qu'on nous donne extrêmement... On nous donne, pardonnez-moi, beaucoup de règles qui nous disent qu'en fait, moi je me souviens dans l'incubateur dans lequel j'ai monté ma première boîte, une personne qui a commencé son introduction en disant « Si vous ne recevez pas au minimum 140 mails par jour, c'est que vous n'en faites pas assez.
» La quantité.
Et en fait, moi je regardais ma boîte mail, putain, je me disais « Putain, j'étais pas très bon, je devais recevoir 40 mails. » Et j'ai mis du temps avant de comprendre ça que en fait, à un moment, on s'en fout de vouloir absolument de tout remplir ou d'avoir le plus de mails, ou d'avoir le plus de ci, de ça. C'est comment, en fait, je reviens sur ma question de focus, puisque c'est moi les choses qui m'intéressent aujourd'hui,
ouais,
c'est
ouais.
Comment je me focalisais. Là, sur Compostelle, j'allais d'un point A à un point B, et comme le disait mon vieux père, le voyage vaut autant que la destination. Et là, réellement, le voyage, il vaut autant que la destination. Parce que là, réellement, tu fous un pied devant l'autre. Et tu avances petit à petit et tu regardes ce qui se passe autour de toi ou si tu trouves ça difficile parce que tu passes des moments où tu grimpes beaucoup, où tu descends beaucoup, tu as mal aux jambes, tu as mal de partout et tu te mets intérieurement, t'as intérêt d'avoir, j'allais dire, une richesse intérieure ou de te créer une richesse intérieure qui te permet de continuer à avancer. Et ça a été un révélateur intéressant et j'invite tout le monde à faire cet exercice-là. Et je pense que de le faire un mois et de le faire 2 mois jusqu'à Saint-Jacques ou au-delà de l'aspect purement religieux, spirituel, c'est tout ce schéma de prendre beaucoup plus le temps. Comme quand tu vas voir un ami, ouais. Comme quand tu vas voir, il est de pas consommer, il est de prendre le temps. De le regarder, de discuter, de te demander, mais je vais voir quelqu'un, pourquoi je vais le voir? Et qu'est-ce que j'ai envie foncièrement de lui apporter? Et y a, ça ramène tout ce rapport à ça.
Et il doit être intéressant, mine de rien, la durée, tout le chemin de
Compostelle. 2 mois. Ouais.
Voilà, 2 mois.
Ouais,
en fait, à mon avis, ça doit être une expérience, ça doit être vraiment très intéressante et forte pour ça aussi.
C'est sûr.
C'est que tu prends 2 mois pour faire ce type de chemin-là. Donc là, ton rapport au temps s'éclate complètement. Et t'es pas dans une situation de stagnation, t'es dans une situation de mouvement aussi.
Ouais. Et 4 heures pour rentrer chez toi. Pour rentrer de Saint-Jacques à Lyon, il faut à peu près, ouais, allez, genre, il faut à peu près 5 heures en avion. Avion autre pour pouvoir rentrer chez soi. Alors que t'as passé 2 mois à marcher. T'imagines le rapport?
Ouais, c'est clair. C'est une dilution qui est assez impressionnante, quoi.
Ouais.
Et c'est là où ça rejoint ce que tu disais sur le focus. Moi, j'aime bien le terme d'attention aussi. L'attention. Parce que quand j'étais à l'île de Ré la semaine dernière, c'était intéressant aussi de voir que quand tu te balades sur une île en plus qui fait 4 km de large, donc en gros, même en vélo, tu mets 30 minutes pour aller d'un bout à l'autre. Donc quand il y est pendant 4 jours, tu as le temps, tu vois, tu as le temps de pouvoir l'explorer. Et tu te dis que si jamais ça n'avait été qu'une étape sur un Tour de France, par exemple, eh ben, tu aurais peut-être fait le tour de l'île en vélo.
Ouais.
Et tu serais passé devant toutes les petites falaises comme ça en vélo, en t'arrêtant 2-3 fois, en regardant le paysage un peu de loin, en disant...
En prenant une photo, surtout.
Voilà, en prenant une photo, bien entendu, en disant « Ah, c'est beau, c'est super sympa », et puis hop, tu continues ta route pour qu'à la fin de la journée, ça soit terminé, que tu reprennes le bateau et que tu continues.
Ouais.
Et
tu consommes.
Et là, voilà, c'est une forme de consommation. Et là, sur la dimension d'attention, nous, par exemple, quand on a fait le tour en vélo, à un moment donné, ton vélo, tu le poses à chaque fois, puis tu marches, tu te poses sur un bout de falaise. Et là, en fait, quand tu es sur un bout de falaise, tu te retrouves à avoir un point de vue sur toutes les falaises et un bout de l'île. Et tu dis, putain, ici, c'est quand même vraiment beau, quoi. C'est vraiment sympa. Donc, tu fais ta photo ou même ta petite vidéo. Moi, je me suis amusé à faire les petites vidéos. Tu dis, ah, c'est vraiment beau. Là, j'ai vraiment chopé le cliché qui est trop bien. Et puis, plus tu restes dans cette démarche-là, à t'arrêter sur des petits bouts de falaise qui sont des fois espacés de juste 5 mètres et que tous les 5 mètres, tu as un nouveau point de vue et un nouveau type de détail et tu fais « Ah, tiens, là, c'est beau aussi, il faut que je refasse une photo, il faut que je fasse un bout de vidéo » et qu'à la fin de la journée, tu te rends compte que tous les 5 mètres, tu étais capable d'être vraiment attentif sur la différence de beauté qu'il y a. Moi, je me rappelle qu'à un moment donné, à la fin de la troisième journée, je disais à Lauriane, là, il faut qu'on arrête de se faire des petits bouts tous les 3 mètres parce que sinon, moi, je finirais par m'arrêter tous les mètres. Et puis, plus tu regardes dans le détail, plus tu trouves ça beau. Et au bout d'un moment, tu fais, non, mais bon, ça va, ça reste une falaise, tu vois. Mais l'attention fait que la beauté, en fait, finit par se révéler avec beaucoup plus de granularité, beaucoup plus de détails.
Ouais.
Et des fois, ça devient même un peu comme certains disent quand ils font des retraites... De 10 jours ou des retraites de survie dans la nature ou quoi que ce soit, et quand ils reviennent, ils disent, mais en fait, il y a trop de choses,
il y a
trop de détails, il y a trop de détails, il y a trop de beauté, c'est violent, hein, limite, quoi. Et je trouve ça beau aussi, en fait, de pouvoir atteindre ce degré d'attention, mais qui ne peut s'atteindre, je pense, que si on y laisse le temps.
Ouais,
parce que c'est pas en passant 3 minutes devant une falaise que tu vas en découvrir la beauté, quoi. Tu vas juste avoir une beauté superficielle, enfin, une impression de beauté superficielle, quoi.
Ce que tu es en train d'exprimer, c'est tous les sujets qui tournent autour de la neuroscience aujourd'hui, ou cette capacité après derrière de pouvoir se focaliser, de se focusser. En fait, ce qui est important dans l'histoire, c'est que l'apprentissage que tu as là, c'est que tu te dis que tu es capable de le faire. Parce que très souvent, on voit aussi tous les manques. Qui existe dans l'école, ou je reprends l'école, où très souvent on dit « ouais, cet élève a un manque d'attention, il y a un manque de ci, il y a un manque de ça ». Ça, c'est des choses, pour moi, en plus de la curiosité, qu'il faut apprendre. C'est comment on apprend à se focaliser pendant un laps de temps. Et moi, je l'ai appris avec une technique très simple qui s'appelle la technique Pomodoro. Mmh. C'est par tranche de 25 minutes. c'est pendant 25 minutes, je coupe tout ce qu'il y a autour de moi et je me focalise sur la tâche, le sujet que j'ai envie de faire. Mais que ce soit la vaisselle jusqu'à apprendre une technique pour du coaching, sur un truc sur lequel j'ai envie de me focaliser.
C'est intéressant la nuance que tu viens de donner là, sur le fait que tu te focalises 25 minutes sur la tâche que tu as envie de faire.
Ouais. Est-ce que tu as envie, et sur la tâche que tu vas faire. Et c'est vrai qu'il y a l'envie, mais il y a des tâches que tu as peut-être moins envie de faire.
Et là, du coup,
mais
ça arrive à fonctionner.
Mais que tu te focalises pendant. Ouais.
Ok.
Parce qu'en fait, tu vas juste te focaliser un laps de temps qui va te permettre d'aller de le faire de manière efficace. Typiquement, je prends le cas de la vaisselle, mais au moins, tu te focalises à ne faire que ça. Mmh. Et on a une tendance à se croire toujours constamment multitâche, encore plus avec... l'apprentissage qu'on fait tous, très souvent entre le distinguo entre les femmes et les hommes, que les femmes peuvent en faire plusieurs choses en même temps, pas les hommes, pas ci, pas ça. En fait, il faut aplanir certains de ces sujets-là et le sujet, il est en fait que, sur quoi on peut arriver à se focaliser. Et moi, je me suis rendu compte aussi sur les sujets liés à l'alimentation. C'est pareil. L'alimentation, très souvent, on prend ça comme quelque chose d'annexe qui est extrêmement important pour nous de manière générale, mais c'est comment pendant 25 minutes, on se focalise sur ce qu'on mange, sur le goût, sur ce qu'on va faire. Et ça, tout ce développement-là, il est hyper important. Et moi, je m'en suis rendu compte un jour où je sentais plus rien, j'avais peu de goût et mon goût était très peu développé. Pareil pour Louis. Et je me suis dit comment je pouvais le faire pour pouvoir essayer de redévelopper les papilles que j'avais ou de redévelopper mon sens de l'odorat et son du toucher. Et des fois, ça... C'est juste 30 secondes, 20 secondes de juste qui permet en fait petit à petit à trouver ce genre de choses. Et pour moi, les sens sont extrêmement importants parce que c'est ce qui nous permet de nous guider. Et cette focalisation, elle peut aussi se trouver dans la manière dont on va travailler nos sens. Et c'est ça que je trouve hyper passionnant et intéressant et qu'il n'y a pas besoin d'être quelqu'un d'extrêmement expert dans tous les sujets. C'est qu'on peut développer aussi tous ces capteurs qui nous permettent en fait d'appréhender la vie.
De développer son attention par les sens. Et pour faire ça, il faut forcément laisser du temps.
C'est sûr. Laisser du temps et avoir une forme d'hygiène et d'écologie personnelle. Mm. Et c'est pour ça que très vite, par exemple, j'ai mon téléphone, je ne prends pas de photos. Alors tout le monde dit « Ouais, mais pourquoi ?» En fait, tu vois, ça paraît tellement bête. Peut-être que je me plante, hein, quand j'aurai Alzheimer, je voudrais peut-être vouloir revoir ce que j'ai fait et autres. Mais en fait, par exemple, quand j'ai des potes qui voyageaient, qui me montraient constamment leurs photos, on se faisait des trucs d'une heure où ils me montraient les photos où ils étaient allés. Et en fait, je trouvais que ça perdait foncièrement de quelle émotion il avait vécu dedans. Ou au moins, il ne me le retraduisait pas derrière. Et je parle d'écologie et d'hygiène, bah c'est typiquement quand j'ai bougé, par exemple sur Saint-Jacques, je me suis dit, prends une photo par jour. Tu vois, comme ça, il n'y a pas un besoin de vouloir tout prendre en photo, savoir exactement ce qui se passe.
Tu es plus dans l'observation et dire, il ne faut pas que je rate le truc que je veux vraiment immortaliser.
Il y a ça, et même si ce n'était même pas, il y a des jours où je n'en ai même pas pris. En fait, ça en vient, tu vois, tu m'as dit de préparer trois trucs, et moi, il y a l'une des curiosités qui me touche le plus, moi, c'est les règles. Et toute notre vie, dans n'importe quel moment de notre vie, on émet des règles, et là, je le prends dans ce cas très précis, c'est là, je pars 4 jours, je prends mon téléphone, je le mets en mode avion, pas de problème, comme ça, je ne suis pas embêté, je l'allume à des moments très précis, et derrière, c'est comment je pars une règle très bête, c'est tu prends une photo par jour. Et en fait, au lieu de me retrouver dans la situation de me dire, tiens, ça c'est beau, je le prends en photo, ça c'est beau, je veux le partager avec un tel, ou ça c'est... C'est juste, en fait, je suis devant ça, et ça me crée une émotion, et foncièrement, qu'est-ce que ça me crée? Et tu vois, je parlais des règles tout à l'heure, et en fait, c'est ces règles qui ne sont pas des règles de pouvoir te brider, mais qui te permet en fait, au quotidien, et on s'en rend compte sur les peurs et autres, on se crée des règles constantes. Et j'adore ça, c'est que, en fait, ces règles-là, on peut les travailler et les retravailler.
Voilà, c'est bon, on peut repartir.
Bah, c'était,
petite c'est, coupure, mais...
pas de problème, mais c'était vraiment sur l'aspect de quelle écologie, quelles règles on se met autour de tout. Et on s'en met dans nos relations, on s'en met dans, dans tous nos sujets, dans nos sujets professionnels et autres. Et en fait, c'est de réfléchir à quelles nouvelles règles on pourrait émettre pour pouvoir, en fait, pour pouvoir réaliser ce qu'on a envie de faire dans la journée. Et on peut le retrouver dans plein de choses. L'alimentation en est une.
Ce que je voulais te demander au départ, c'était quelle couleur tu mettais sur le mot règle, justement. Parce que c'est vrai que, par exemple, l'exemple de la ligne blanche, tu vois,
ouais.
J'en parlais avec l'oncle de ma copine qui est aux Pays-Bas et qui a participé à tout le mouvement. En fait, il y avait un gros mouvement là-bas de squat pour arriver à faire en sorte que la ville se remplisse, parce qu'au final, il y avait 50% des bâtiments qui étaient vides en fait dans les années 70, parce que c'était que des promoteurs immobiliers qui jouaient sur la spéculation immobilière. Et du coup, pour les re-remplir, c'est les gens qui étaient justement dans la rue ou dans des situations difficiles qui se sont mis à squatter. Et tu t'es retrouvé à voir la ville qui était squattée à 50%, qui a fait que du coup, la ville d'Amsterdam a dû racheter ses bâtiments pour en faire des logements sociaux. Et c'est ça qui a un petit peu lancé toute la culture, en fait, qu'il peut y avoir aux Pays-Bas, avec le côté très solidaire sur les différentes familles, les différents quartiers, le fait qu'il y ait des plantes dehors, enfin, toute cette démarche. Et lui, dans son état d'esprit, me disait vraiment que pour eux, quand tu as une ligne blanche sur une route, c'est un indicateur. C'est pour te dire, c'est une orientation, c'est
ouais.
Voilà, dépasse-la pas, parce que tu risques de te taper une voiture en face ou de créer une complication. Mais si jamais toi, plus les gens autour, on considère qu'il y a un intérêt à passer cette branche blanche, ou que tu veux y passer un peu sans que ça fâche chez personne pour explorer, tu peux le faire. Alors que dans la culture française, c'est globalement assez différent, c'est que quand il y a une bande blanche, c'est une règle, c'est un mur, tu ne passes pas la bande blanche, tu vois. Et donc c'est intéressant, je trouve, ce que tu disais sur les règles, qui sont plus, pour toi, si tu me diras si je me trompe ou pas, mais plus des indicateurs que vraiment des espèces de murs qui sont là pour te segmenter ton labyrinthe de vie, quoi.
C'est sûr. En fait moi, il y a deux choses. J'en reviens, pour moi, la règle, je vais faire un peu le parallèle sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur la peur. Pour moi, les règles ne doivent pas devenir un geôlier, elles doivent être aussi en mode de conseil. Quand je parle de règles, il n'est pas forcément la règle juridique à proprement parler, en disant que tu ne dépasses pas la bande blanche, sinon tu risques de prendre tant de points, tant de choses si on prend le code de la route ou typiquement sur le sujet du squat et autres. En fait, je parle de règles personnelles. On est tous régis par des règles personnelles qui nous sont données. Et ce qui est intéressant, c'est essayer de les comprendre, parce que très souvent, on n'arrive pas à savoir pourquoi on procrastine sur telle chose, pourquoi on n'arrive pas à arriver à l'objectif qu'on s'était fixé, pourquoi on n'arrive pas à créer sa boîte à tel moment et à tel endroit, parce que très souvent, il y a des amoncellements et il y a des règles qui se télescopent les unes entre les autres. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ces règles-là, elles ne sont pas immuables. Puisque quand on est né, même si on nous les a données, même si elles peuvent être extrêmement ancrées, elles ne sont pas immuables. Ça permet en fait de pouvoir ensuite s'émettre des règles. Je donne une règle très bête. Par exemple, moi, je me suis beaucoup cherché sur la partie alimentaire pour savoir qu'est-ce qui me permettait d'avoir le plus d'énergie ou me sentir le mieux. J'ai mis une règle toute bête, mais qui n'est pas folle. Je peux la passer comme je ne peux pas forcément l'écouter, mais je me suis dit que 75% des aliments que je mange dans la journée doit être végétal et doivent être composés d'eau sans transformation industrielle. Je ne dis pas que tout le monde doit faire la même chose, mais qu'en fait, je me suis rendu compte que par des tests, par des essais, par du jeûne, par des tests que j'avais faits pour moi-même et en essayant de ressentir ce qui était le mieux, je me suis dit que c'était mieux. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas bouger dans le temps, ça ne veut pas dire que je mange constamment 75% et que je deviens un fondamentaliste en disant « c'est la meilleure règle à utiliser », mais dans mon cas personnel, ça, c'est une guideline pour moi et qui me permet en fait de me dire que si je me couche le soir et que je réfléchis à ce que j'ai mangé et ce qui a été fait, est-ce que ça a été bon pour moi ou pas, et comment je suis flexible en me disant pas « tiens, t'as pas bouffé 75% ou t'en as bouffé plus ». C'est non, c'est comment demain, qui va être un autre jour, je vais être dans cette dynamique et dans cette logique parce que je sais que foncièrement, c'est bon pour moi. Et je ne dis pas que c'est bon pour les autres. Je dis que juste que cette règle qui a été émise pour moi est bonne pour moi. Et que par contre, si on vient me poser la question de me dire comment j'ai fait tel, bah voilà quel type de mantra ou quel type de choses j'ai fait. Et là, on est dans le partage d'expérience. Et c'est ça, et moi, c'est ce qui m'éclate en tant que en tant que coach ou en entrepreneuriat, c'est qu'on se rend compte que ces règles-là qui sont induites, qui sont tacites, et je vous invite à lire cette expérience des cinq singes et de la banane, et bah on se rend compte qu'en fait, ces règles, on se les émet petit à petit. Et il y a des règles qu'on peut outrepasser. Tu parlais du squat. Après, c'est est-ce qu'elles sont en adéquation avec nos valeurs personnelles ? Est-ce qu'elles sont en adéquation ou congruentes avec nous-mêmes ? Et quand on se pose foncièrement la question, c'est là où on commence à réfléchir de manière forte et concrète sur comment on va pouvoir outrepasser. Et je reviens sur le premier sujet dont on a parlé, même de manière très évasive, et on pourra en parler des heures, qui sont les sujets de la peur. C'est qu'on s'émet des règles, on n'a pas le droit de parler à tel type de personne, ou on va faire tant de vagues. Et moi, je me suis émis plein de règles qui m'ont été données et qui n'ont pas forcément toujours été faciles. Mais il y a plein de techniques après derrière pour pouvoir les outrepasser ou pour pouvoir essayer au moins, ne serait-ce de faire un petit pas de côté ou un changement qui permet de les faire. Et là, pour le coup, rapidement. Parce qu'on a tendance à croire dans la vie que quand on a des problèmes qui sont fonciers, sérieux, qu'il faut énormément de temps pour pouvoir le faire. Et ça, c'est une croyance induite qui est très forte, mais que quand on le teste soi-même, on peut changer d'état. Je peux te demander, toi qui fais du théâtre, tu peux changer d'état très rapidement. Et ce changement d'état peut être émis et très souvent lié aux règles qu'on se met.
Ouais, clairement. Et le truc qui me vient par rapport aux règles, c'est le côté, si justement on est dans une situation de peur, parce que dans tous les cas, la plupart du temps, l'être humain n'est pas tout le temps dans l'instant présent, donc on a des espèces de projections sur l'avenir, et donc la peur est souvent liée à une projection de « si jamais je garde pas ça » ou « si jamais je fais pas ça », alors mon avenir va être grosse galère, quoi.
Carrément. Et encore plus si on n'a pas les modèles.
Voilà, c'est ça, exactement. Les modèles, c'est là-dessus où je voulais rebondir, c'est que tu as des modèles, justement, par rapport à tout ça, et tu as la façon de le prendre, donc la façon de se dire, tu te laisses guider par tes peurs, donc tes peurs deviennent tes règles et deviennent tes modèles, et forcément, vu que ta projection, c'est quelque chose que tu ne veux pas atteindre, eh ben, tu vas essayer d'éviter de sortir de ces trucs-là pour surtout pas atteindre ça. Et le prendre dans l'autre sens, ça serait de se dire, au lieu de regarder ce que j'ai surtout pas envie qui arrive, par mes peurs,
il faut regarder ce qu'on a envie.
Je vais regarder une forme d'idéal, en fait. Et pour que cet idéal puisse... N'arrivera jamais l'idéal, c'est juste un cap, quoi. Mais pour que je puisse aller dans le sens de cet idéal, prendre le mouvement vers là-bas, j'ai une attitude à avoir. Et en fait, cette attitude est définie par des formes de modèles ou des formes de règles, mais qui sont évidemment différentes pour chaque individu.
Ouais.
Et c'est là où je trouve que le langage est important, c'est qu'en fait, des fois, il faut arriver à rester sur une forme d'objectivation du langage, de se dire, voilà, il y a idéal, attitude et ton état d'esprit.
Ouais.
Et il y a des outils que les gens peuvent te partager sur l'état d'esprit, il y a des outils, des méthodes sur l'attitude, il y a des outils, des méthodes sur l'idéal, mais dans tous les cas, c'est quelque chose que tu te réappropries, parce que c'est indépendant de chaque individu.
T'en viens à un point très précis, c'est que quand on est, et moi je crois foncièrement, parce que comme on a un temps qui est limité, on est vraiment la somme des cinq personnes que l'on fréquente. Mais il y a juste à regarder autour de soi. Et au-delà de cette somme, en fait, ce qui est toujours important, et moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup guidé. On parle depuis très longtemps des mentors, de personnes autour de nous, et en fait, pour moi, la chose la plus importante, c'est quand on a quelque chose qu'on a envie de réaliser, qu'il soit du rêve, de l'objectif, de l'envie, il faut toujours se mettre dans une écologie positive de personnes qui ont déjà réalisé ça. Parce qu'on est plusieurs milliards sur cette planète et il y a des personnes qui ont déjà réalisé ce que l'on aimerait faire ou qui ont déjà une bribe de ce que l'on aimerait faire. Et ce qui est vraiment hyper important dans cette histoire, c'est qu'il faut arriver à se créer ces modèles-là, à aller les comprendre en lisant. Moi, j'ai trouvé beaucoup, beaucoup, beaucoup de leviers en lisant. Mais aussi d'aller les rencontrer, d'aller, comme tu fais Fabrice, là, peut-être d'interviewer, peut-être de rechercher en profondeur. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement hyper important qui, pour moi, aujourd'hui... c'est qu'on peut aujourd'hui se créer j'allais dire pas mentors, parce que j'aime pas trop le terme, mais de personnes inspirationnelles. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui. Et pour moi, qui me drive au quotidien, c'est que je cherche toujours des gens, parce que j'aurai toujours des gens qui ont réalisé plus que moi, qui ont des expertises plus fortes que la mienne. Et si j'ai envie de le faire, c'est de faire pas la même chose, pas du copier-coller, mais je vais pouvoir m'inspirer de ce qu'ils ont fait, des attitudes, des postures. Et je donne un exemple tellement bête, mais tout le monde le connaît. Entre guillemets, même si on n'est pas passionné par ce sport, en natation, on connaît tous Lormane Odo, qui a été championne du 400 mètres et qui, à une époque de désert ultime dans la fédération de natation, a été championne olympique. Son petit frère, en fait, au-delà du fait qu'il a quelques capacités physiques, mais qu'il a développées, en fait, il est né dans cette écologie. Il est né dans cet écosystème qui lui a fait dire que même si pour nous les Jeux Olympiques ça paraît tellement fou, il est né dans cette écologie en disant ma sœur y est arrivée, pourquoi pas moi? Ma sœur y est arrivée, qu'est-ce qu'elle a fait pour pouvoir y arriver? Et moi, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir y arriver? Et en fait, c'est très souvent dit oui, cette famille, il y a des choses innées et hors normes. C'est pas des gens qui sont plus hors normes que nous. C'est juste que là, l'atavisme familial entre le frère et la sœur ont fait que le frère a pu se modéliser en se disant que moi aussi je suis en capacité de pouvoir le faire. Et bien, juste en prenant cette idée au-delà de l'aspect des JO, l'aspect de tout ce qu'il y a autour, mais juste en prenant cette idée de se dire que l'écologie dans laquelle on se met, les gens que l'on va fréquenter, les gens avec qui on va échanger, avec qui on va discuter, vont nous permettre à un moment donné de se mettre dans une forme de réalisation de ce qu'on a envie de faire. Et on n'est pas obligé de le faire parce que très souvent les personnes ne sont pas à côté de nous, c'est plutôt difficile de les avoir, mais c'est important. Et là, on en revient à l'information. On a énormément d'informations. Vous voulez écrire des bouquins pour les enfants? Regardez ce que fait J.K. Rowling. Vous voulez comprendre intellectuellement parlant certains philosophes ou de pouvoir devenir philosophe vous-même, essayez de comprendre de quelle manière les philosophes appréhendent les textes pour pouvoir les retraduire et quelles sont les différentes
Oui,
recettes.
bien sûr.
En fait, chacun a eu des recettes et clés de succès. Et ça en vient au sujet de cette peur de ne pas réussir ou de ne pas être là où on a envie d'être. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'échec et qu'est-ce qu'on fait de cette information-là, qui est un gros sujet de curiosité aussi pour moi.
C'est sûr. Et moi, ça me fait penser à un biais en fait de base qu'on a dans notre société actuellement, même, qui est même là depuis très longtemps. C'est que, par exemple, pour le frère d'Anodou et sa sœur, sa sœur. Elle a porté une expérience, donc elle a porté un modèle de pensée, une évolution dans son schéma de pensée, si on revient sur la plasticité du cerveau, tu vois. Et toutes ces bribes-là, en fait, elle peut les partager avec son frère.
Bien sûr.
Du coup, son frère peut s'inspirer de ce qui s'est passé dans la tête de sa sœur, parce que sa sœur lui partage. Et le biais qu'on a souvent dans notre société, c'est que quand on va découvrir des personnes inspirantes, il va y avoir une tendance à s'accrocher à la personne, en disant que la personne est géniale, la personne est inspirante, et que du coup tu te reconnais dans cette personne-là, ou tu veux suivre un peu les traces de cette personne-là. Et en fait, il y a l'amalgame qui est fait entre
Ouais,
la
entre la
personne,
il y a une
c'est ça,
personnification
voilà, c'est
du
ça, entre la personne et ce qui s'est passé dans sa tête. Parce que si justement on arrive à faire le décrochage entre la personne et ce qui se passe dans sa tête, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de tout prendre ce qui se passe dans la tête de la
Ah non.
personne, on peut en prendre que des petits bouts, et puis faire ça avec 30 autres personnes, et puis nous recomposer le puzzle pour ce que nous on a envie d'en faire. Et là, ça devient vachement intéressant. Pour finir sur ce point, par exemple, ce bouquin La convivialité, je l'ai adoré. Le nom de l'auteur, je pourrais même pas te le citer clairement, je connais pas sa vie, je connais pas son histoire, et en fait, ça peut être intéressant aussi de regarder son background et comment est-ce qu'il a construit sa vie pour en arriver à cette pensée-là. Mais pour le moment, il n'y a pas du tout de considération de l'humain en lui-même, en fait. Il y a vraiment le fait de le lire, de voir comment est-ce qu'il a connecté l'idée, comment est-ce qu'il pense. Et moi, qu'est-ce que ça me fait décliquer et qu'est-ce que j'en garde et qu'est-ce que je peux en utiliser. Donc vraiment, ce décrochage de la personne et de la pensée, je pense qu'il peut être intéressant de faire aussi. Pas que, mais ça peut être intéressant.
Ça en vient après à la starification qui peut y avoir derrière toutes ces personnes-là. En fait, l'entrepreneuriat, la création de ma première boîte m'a appris une chose. M'a appris une chose, c'est que en fait, on peut toucher tout le monde. Et que même les gens qu'on voit sur papier glacé ou autre, on décorrèle complètement le côté star et la starification. C'est des gens comme nous qui ont les mêmes doutes, qui ont eu des doutes pendant leur carrière sur ce qu'ils ont fait, sur ce qui... et quand on commence à voir réellement ça, c'est là où je te rejoins, c'est que ce qui est intéressant, c'est de prendre l'expérience, mais pas l'expérience, de prendre la manière dont ils ont fait, comment ils se sont positionnés. Si on reprend l'exemple de la famille Manodou, sa sœur, au-delà de lui montrer qu'il est en capacité de faire les JO, elle lui a montré comment nager le crawl, elle lui a montré comment placer son bras, elle lui a expliqué ce qui a fait que elle a réussi à utiliser ses forces, ses faiblesses et comment elle a réussi à y aller. Qu'est-ce que mentalement elle a dû passer pour pouvoir arriver à cranter et à nager aussi vite sur un 400 mètres. En fait, l'important là-dedans, il n'est pas de starifier, de mettre sur un piédestal la personne en se disant qu'elle a réussi à faire tout ce qu'on voudrait faire. Non, c'est d'essayer de comprendre, et je sais que je paraphrase un peu ce que tu viens de dire,
Ouais, vas-y.
mais
C'est avec un autre point de vue, de toute façon, donc.
il est vraiment de prendre ces bribes d'expérience. Et là, on a une chance. C'est que beaucoup écrivent sur ce qu'ils ont vécu, beaucoup expriment sur ce qu'ils ont vécu, et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est à disposition. Mais c'est pas parce que c'est à disposition qu'on va l'utiliser à bon escient. C'est comment nous, en tant que personne, avec les fameuses règles, en tant que ce qu'on est, là où on a envie d'aller, on est en capacité de pouvoir les réutiliser pour nous. Il n'y a pas de recette secrète, il n'y a pas de miracle. Si je reprends le sujet du baseball, c'est juste quel rapport on a sur on essaye, ça marche pas, ok. Qu'est-ce que je peux faire de mieux pour arriver à l'objectif où on a envie? Et ça marche pas, ok. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Ça marche pas, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Comment je peux faire différemment? Ou peut-être c'est peut-être pas le bon modèle. Avec quel type de modèle je peux le faire? Et ce modèle, c'est pas forcément des gens dont on connaît le nom et le prénom en face à face. C'est peut-être notre père, c'est peut-être notre mère, c'est peut-être notre concubin, c'est peut-être concubine, c'est tout ce que tu veux. C'est en fait des gens qui, à des instants très précis dans leur expérience, vont nous permettre en fait de pouvoir réaliser certaines choses ou de pouvoir nous inspirer. Et c'est l'une des plus grosses difficultés, c'est d'avoir peur d'être trop ostracié par. Puisque comme d'une certaine manière, on ne peut pas donner de l'attention aux plusieurs milliards de personnes qu'on a sur cette planète, on donne de l'attention à que quelques personnes. Je parlais de 5 tout à l'heure, ce n'est pas un chiffre immuable. Mais c'est ça qui est important, c'est à qui on va donner de l'attention. Et c'est ça aussi, cette crainte de temps en temps de se dire on a donné de l'attention à quelqu'un, mais maintenant il faut, si j'ai envie d'aller pour réaliser mon objectif ou ce que j'ai envie de faire, il faut que je donne de l'attention à d'autres personnes. Donc ce qui veut dire en donner un petit peu moins à d'autres personnes. Et il y a aussi certaines peurs d'avoir peur de se faire ostracier de tout ça ou de faire des choix qui sont différents de l'écosystème dans lequel on vit. Mais ça, après, c'est notre envie, nos appréhensions et l'envie qu'on a envie de mettre dessus.
J'ai une image qui me vient en tête en rapport à ce qu'on dit là et ce qu'on disait au tout début aussi par rapport à cette espèce de panel des possibles immense et que du coup on ne sait pas où partir. C'est que souvent on a cette image de se dire que la vie c'est une sorte de labyrinthe et donc du coup quand on valorise justement l'erreur on se dit bah, dans ce labyrinthe on se trompe, on arrive dans le coin où on tape contre le mur et puis après on repart dans un autre sens et on y va. Et ce modèle-là est intéressant mais ce modèle-là reste sur une logique de on a des règles qui font les murs du chemin. Mais qui sont des murs. Et donc, ben forcément, pour que je puisse arriver à avancer dans le labyrinthe, j'ai besoin de. Enfin, il y a ces murs, et il faut juste que j'arrive à trouver le bon chemin, donc que je trouve les bons modèles pour bouger le truc. Et moi, l'image qui me venait en tête, c'était de se dire que peut-être que la vie est un labyrinthe, mais que c'est pas des murs, c'est des lignes blanches. Donc en fait, t'es pas coincé dans les chemins,
Peut-être.
mais tu peux carrément passer sur les lignes et aller te perdre ailleurs dans le labyrinthe, et c'est ça qui peut faire peur, c'est de sentir qu'il y a un chemin, mais qu'en même temps tu peux complètement outrepasser ces espèces de lignes, mais qu'en même temps tu as besoin de ces lignes parce que ça peut être des guides pour que tu puisses arriver à retrouver
Bien
ton
sûr.
chemin, et donc voilà, ça donne un espèce de labyrinthe un peu vivant comme ça qui bouge, donc c'est ça qui peut peut-être faire peur aussi aux gens de toucher à ça en fait, les gens qui potentiellement sont. Tu vois, par exemple,
Je comprends.
sont extrasensibles de manière complètement intuitive. Ils ont cette vision de la vie qui est où le champ des possibles est infini et où ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et du coup, ça leur génère quelque chose qui est fort et que ça leur fait peur. Et du coup, à ce moment-là, ils se disent, ben, je vais peut-être quand même me mettre des murs. des vrais murs, bien solides. Comme ça, je vais quand même pas me perdre dans tout ça, tu vois.
Je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Après, tu te mets des murs à partir du moment donné où c'est congruent avec ce que tu as envie d'être, ce que tu as envie de faire et là où tu es. Et on n'est jamais j'allais dire, à 100% ou la jauge complètement pleine. Le seul propos qu'il faut retenir là-dedans, c'est que tu utilises la métaphore et t'imagines la puissance de la métaphore que tu utilises parce que d'une certaine manière, pour toi, la métaphore, c'est la métaphore du labyrinthe. Mais peut-être que pour d'autres,
Ouais.
c'est des métaphores complètement différentes. C'est peut-être une pièce de théâtre qui joue avec les trois coups au démarrage en trois actes et que le premier acte, c'est l'enfance, la vie d'adulte et la vie de senior. Mais tu vois, en fait, c'est quelle image tu veux te mettre? Mais ces images-là, tu te les as créées toi-même. Ce labyrinthe, tu te les as créées toi-même.
Bien sûr.
Ces murs, tu te les as créés toi-même. C'est en ça où... Et après, donc, dès que tu commences à saisir ça, si tu comprends que... Il y a des choses qui ont réussi à mettre des lignes blanches ou des murs. La religion a réussi à mettre des lignes blanches et des murs. C'est un discours irreligieux, hein, j'ai aucun
Ouais.
problème là-dessus. Mais en fait, c'est là où on va aller chercher du sens chez d'autres personnes ou dans d'autres congrégations ou dans d'autres envies. Mais c'est nous qui les choisissons. Et le plus important, je pense, là-dedans, et la seule ligne blanche qu'il faut se mettre, entre guillemets, c'est... Il faut juste éviter de se faire dicter constamment les choses par d'autres. Parce que c'est là la plus grosse difficulté. À partir du moment donné où on se fait dicter par les choses par d'autres, tu vas concourir à cette autre personne. Tu vas concourir à travailler dans ses propres règles à elle. La question,
Ouais,
c'est jusqu'où tu es capable
tu
de
te retrouves à
travailler
être
dans
dans
ses propres
son, tu te retrouves à
règles.
être dans son labyrinthe avec ses murs qui deviennent tes murs à
Exactement.
toi. D'où l'intérêt d'aller voir d'autres cultures ou d'autres gens qui pour les autres, ça sera qu'une ligne blanche et pour d'autres, ça sera un mur. Et du coup, tu te peux
Exactement.
te poser la question de dire pourquoi pour lui, c'est un mur si costaud et si rigide alors que pour l'autre, ça n'est qu'une ligne blanche, voire même, des fois même pas une ligne.
Tout à fait.
Et là, tu peux te créer ton propre modèle en basant sur cet extra, quoi.
Exactement. Et après, c'est cette compréhension-là. C'est pour ça que je trouve que le sujet des règles et les métaphores sont hyper puissantes. Tu vois, tu utilises le labyrinthe, mais moi, pour moi, la vie, c'est pas un labyrinthe. Pour moi, la vie, c'est une aventure. Et tu vois, cette aventure-là, elle a un début, elle a une fin, et qu'elle vaut autant que la destination, je l'ai déjà
Ouais.
cité tout à l'heure. Et c'est vraiment mon mantra personnel, c'est que la vie,
Et ça
enfin
ressemble à
le
quoi du coup
voyage vaut autant que la destination.
entre la naissance et la mort, le voyage, pour toi, est-ce que t'as,
C'est l'aventure, c'est même pas le voyage.
est-ce que dans ta tête ça te donne une visualisation comme moi je peux avoir? Moi je sais que je suis très visuel et j'ai des modèles qui sont visuels.
Ouais.
Toi ça se passe comment dans ta tête? C'est plus une forme d'histoire, c'est plus une forme de je
Moi,
sais
je suis
pas.
un visuel et kinesthésique, et donc j'ai vraiment besoin d'avoir cette sensation aussi des températures, de l'énergie qui gravite dans le mur.
Donc la vie, ce serait l'aventure, ça serait un changement de, ça pourrait être un changement de température pour toi, ça pourrait être
Mais je suis aussi très visuel, hein. Moi, pour moi, quand je dis que la vie, c'est une aventure, en fait, c'est on fait des rencontres, on peut être... en soutien de personnes à des moments précis, ou d'autres peuvent être à ton soutien à des moments précis, ou en fait, c'est par les rencontres et l'environnement dans lequel on vit. Et en fait, j'ai besoin de changer d'environnement. Et c'est pas un changement forcément géographique, mais c'est un changement d'environnement. Tu peux passer la porte d'en face et tu regardes la porte d'en face, les gens en face de toi ne vivent pas la même chose. Ils vivent de manière complètement différente dans leur congrégation ou dans leur écosystème. Et c'est ce que je trouve vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'avant d'avoir une critique vraiment forte, acerbe, méchante et autre, il faut aller voir, il faut aller comprendre avant de pouvoir. Et moi, c'est ce que je trouve le plus dur aujourd'hui, c'est que tout le monde a un avis sur tout. Tout le monde a un avis sur le mariage homosexuel, tout le monde a un avis.
Parce que
Moi, je
tout le
suis
monde
pas.
sait un minimum et est renseigné, vu que le truc des créatifs culturels que je disais, le côté prétentieux du créatif culturel, c'est que vu que tu peux être renseigné sur tout, tu as forcément un avis sur tout.
Ben
Et
ouais,
ça crée
mais moi
le problème que tu dis.
pas assez homosexuel pour dire s'ils ont le droit de se marier ou pas. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est là où à un moment il faut savoir émettre on reparle des règles, mais il faut savoir se dire que c'est pas parce qu'on est curieux qu'il faut avoir vraiment et foncièrement un avis sur tout. Et moi, ma vie, elle a fondamentalement changé le jour où je me suis dit, j'avais pas raison sur tout. Je n'ai pas raison sur tout. Et il faut pas absolument essayer d'avoir raison sur tout. C'est quelque chose de très fort quand on vieillit, quand on devient de plus en plus vieux, c'est qu'on a envie d'avoir, et parce qu'on pense avoir de l'expérience, d'avoir une forme de raison sur tout. Et non. Dans le sens où on peut avoir un avis, on n'est pas obligé de l'émettre. Et au-delà de les mettre, derrière, il faut essayer d'être assez plastique pour pouvoir comprendre le point de vue et la position de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des réflexions extrêmement tranchées ou d'avoir des croyances, et je vais aller même plus loin que les croyances, mais avoir des choses qui sont extrêmement ancrées. Mais l'important, c'est de savoir, de pouvoir les remettre en cause, de pouvoir remettre en question certaines choses. Et moi, je pense que c'est l'une des plus grosses forces qu'il faut essayer de se développer et de ne pas essayer d'être pétri de croyances et d'être de savoir et d'être sachant. Et c'est la difficulté quand tu es extrêmement curieux parce que tu as lu telle chose ou tu as convoité ou tu as réfléchi sur telle boîte, sur tel modèle économique ou sur telle chose, que tu as une tendance à croire que sous prétexte que tu l'as vu, que tu l'as étudié, tu t'en accapares une forme d'expertise. Et c'est là où on revient sur le sujet du focus et de l'expert. C'est qu'à un moment donné, c'est où est-ce qu'on veut se mettre. Et où est-ce qu'on veut vraiment mettre son énergie et son temps, parce qu'on a un temps limité. Et donc, ça en vient à tout.
Mais c'est là où c'est intéressant. Après, je pense qu'on va s'arrêter, parce qu'on a bien parlé, là, c'est cool. À moins que tu aies un dernier sujet de curiosité, on pourra finir là-dessus. Mais juste avant ça, c'est le côté, pour rejoindre tout ce que tu disais, le côté expert. Là où on a envie de mettre de l'énergie pour être expert, mais si on part du principe qu'en effet, on n'aura jamais raison sur rien. Dans ce cas-là, on ne sera jamais expert absolu sur rien. Donc, c'est là où on peut se mettre à jauger à quel niveau d'expertise on a envie de monter.
Bien sûr, par rapport, le nombre d'heures qu'on a passé.
À ça, par rapport à ce qu'on a envie d'en faire. Ouais. Parce qu'on n'a pas besoin d'être nageur expert si on veut juste nager avec des potes et faire un water polo de temps en temps.
Carrément.
Donc, à chaque fois, on va dire que l'idéal qui va driver l'attitude et la montée en compétences, ça sera simplement ce qu'à un moment donné, on a envie de faire. Moi, je sais que par exemple, là, pour la natation, j'ai jamais vraiment énormément nagé. Mon idéal, ça serait de pouvoir être dans l'eau de manière très agile et pouvoir me dire si je vais nager en mode détente pendant une heure dans un lac ou dans la mer, eh ben, je peux être là et dérouler pendant une heure sans être foncièrement fatigué à la fin et rentrer. Voilà. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, je ne vais pas commencer à y mettre 2 heures ou 3 heures par jour, tous les jours, à travailler avec des experts qui entraînent des mecs qui vont en équipe France. Sinon, peut-être que je ferai ça avec des gens qui sont en mode équipe France parce que je veux y assigner moins de temps et du coup, mon énergie, il faut qu'elle soit répartie autrement.
Exactement.
Mais voilà, il y a plein de calibrages à faire. Ouais. Mais je pense que le calibrage, il y a un intérêt à regarder ce qu'on veut en faire, en fait. Tu vois, c'est ça le truc. C'est, tu vas pas t'acheter un matériel de malade mental. Je me serais pas acheté tout un studio entier de micros et un espace particulier pour faire des podcasts. Pour faire des podcasts justement comme on est en train de les faire là, dans une volonté d'être détendu et d'échanger simplement. Ça peut même des fois t'enfermer en fin de compte, ce que je suis en train de me dire, c'est que si jamais par exemple pour les podcasts j'avais une salle dédiée avec des micros, des machins, des caméras et tout, on pourrait pas avoir le même type de conversation. Et du coup ça dénaturerait au final ce que t'as envie au final parce que t'as voulu être trop expert alors qu'en fait ta volonté n'était pas d'être aussi poussé, ouais. C'est ça. C'est forcément nécessité à être expert. On peut être juste.
C'est vraiment. Et je pense que c'est pour conclure. En fait, à mon sens, à un moment, il faut juste savoir. Et on a des goals, des objectifs, des rêves qui évoluent. Et je pense qu'il faut les utiliser, même s'ils peuvent paraître abjects, difficiles. Irréalisable, mais il faut les utiliser pour s'inspirer et pour essayer de voir où est-ce qu'on met notre temps. Et dans notre vie, à des moments très précis, on passe des étapes qui sont complètement différentes. Mais ça en vient à un seul sujet, c'est où est-ce qu'on a envie d'aller ? Où est-ce que ça fait sens pour nous ? Et c'est pas facile de se l'écrire. Et c'est pas facile de se le dire. Mais moi, j'ai un exercice que je trouve intéressant et morbide. et on en parlait la dernière fois, c'est d'écrire sa nécrologie. Et d'écrire, en fait, qu'est-ce qu'on a envie de léguer. Comment, de quelle émotion, de qu'est-ce qu'on a. On a envie de léguer, pas forcément à ses parents, mais à ses enfants, à tout ce qui est autour. Mais c'est, et moi, je trouve l'exercice extrêmement intéressant parce qu'elle permet d'avoir, premièrement, une humilité, parce que ça fait comprendre qu'on ne va pas être là ad vitam aeternam. Et deuxièmement, ça permet juste de se dire, en fait, si vraiment ça venait à s'arrêter rapidement, et c'est quelque chose qui me touche parce que je connais ça, si clairement ça venait à s'arrêter rapidement, qu'est-ce qu'on aurait voulu faire pour soi-même et qu'est-ce qu'on aurait voulu faire pour les autres? Et ça en vient à un sujet, c'est qu'il faut l'écrire, il faut le lire tous les jours. Où est-ce qu'on a envie d'aller? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Qu'est-ce qui nous fait kiffer? Et derrière, c'est qu'est-ce que je dois mettre en place? Quel premier pas je dois faire? Avoir un mini studio, tu parles de studio, mais c'est juste acheter un truc qui filme ou un truc qui te permette de pouvoir faire de l'écoute ou de l'échange et de trouver un lieu. Il n'y a pas besoin de plus des fois. Mais quel petit pas je peux faire pour aller à là où j'ai envie d'aller? Et c'est hyper important de s'écouter. Et des fois, c'est paradoxal avec la vie qu'on vit et qu'on mène maintenant. Mais c'est important d'écrire ce paradoxe-là et se dire, est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller? Est-ce que c'est congruent avec moi-même? Qu'est-ce que je vais devoir faire pour pouvoir le faire? Et c'est ça, et de constamment essayer, même si ça ne marche pas, réessayer. Si foncièrement c'est fait pour nous, c'est d'aller jusqu'au bout, de passer du temps, de se focaliser, de se focuser pour pouvoir y aller. Et c'est ça qui est le plus... Ça fait partie des choses qui sont le plus important, c'est qu'est-ce qui fait sens? Et faire ce travail-là n'est pas facile, mais... Il faut le faire, parce que c'est ce qui permet au quotidien de se réactiver et de se dire, ok, je suis arrivé à là, maintenant, qu'est-ce qui fait sens?
Un petit travail d'écriture régulier pour arriver à faire un point et se refocus aussi sur son cap.
Carrément.
Cool. Eh bien écoute, Grégoire, merci pour tout. On a fait 1h30, dis donc. On a même fait un quart d'heure plus que d'habitude. Donc, merci pour cette énergie. Et puis, tu reviens quand tu veux, parce que je pense qu'on aura encore plein de discussions à avoir.
Merci, voilà. Merci, belle journée à vous tous.
Hey, voilà, fin d'une conversation qui m'a encore régalé. Je ne sais que dire. Merci Grégoire, merci à chaque fois d'apporter dans ces discussions, dans ces podcasts, tellement d'axes de compréhension sur des sujets. Et je pense que vous l'avez ressenti, mais à chaque fois, quand on est dans une conversation, on peut être profondément d'accord sur la source d'un bout de pensée avec quelqu'un. Au final, tout ce qui fait la diversité, c'est l'interprétation de chacun, c'est la manière dont chacun arrive à modeler ça dans son esprit. Moi, je vois la vie un peu comme actuellement, ça peut évoluer bien sûr, mais je vois la vie un peu comme un labyrinthe, avec du coup pas des murs, mais des lignes blanches, comme on disait. Et puis Grégoire, lui, c'est une aventure, c'est un peu plus, peut-être un peu plus romancé, peut-être que c'est un peu plus ouvert. En tout cas, c'est fascinant de voir qu'à chaque conversation, à chaque personne, il y a son propre modèle de pensée, et ça donne vraiment envie de continuer à rencontrer plein de personnes. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez bien aimé. J'espère que vous avez aussi envie peut-être de venir discuter avec moi pour un podcast. Vous avez remarqué, il n'y a aucune limite. Le but du jeu, ce n'est pas de se mettre à interviewer des personnes de plus en plus connues ou des personnes dont on dit que la réussite est accomplie. L'idée, c'est vraiment que, au final, on est tous des explorateurs de curiosité. On a tous des belles portes à proposer, des portes qu'on a déjà ouvertes ou qu'on a envie d'ouvrir avec d'autres gens. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez qu'on discute, la porte est grande ouverte. Et, bien entendu, si vous avez des personnes qui vous inspirent, qui sont peut-être un petit peu discrètes et qui n'aiment pas trop écrire, n'aiment pas trop se mettre en avant, quoi que ce soit, mais qui sont ouverts à une discussion simple autour d'un café, et bien pareil, vous pouvez aussi les inviter dans le podcast de Nouvelle Porte. Voilà, pour finir, bien entendu, comme à chaque fois, le petit moment un peu racoleur que j'ai déjà fait au début aussi, mais les 5 étoiles, c'est vachement cool parce que, ça permet juste d'avoir une vitrine qui est visible. Parce que là, actuellement, avec peu d'étoiles, le podcast se retrouve à être dans une rue adjacente de la grande rue principale, et les gens pour qu'ils arrivent dans cette rue, même s'ils ont envie d'être curieux, c'est jamais simple. Donc voilà, petite aide de votre part, ce sera fantastique. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Vous verrez la surprise, toujours. On ne sait pas qui ce sera, mais certainement un curieux. Voilà, passez un bon moment, prenez soin de vous, et puis que l'hiver vous porte, malgré le froid, les cœurs sont chauds. Allez, à bientôt.